Il est 6h57, bon réveil à vous tous avec Europe 1, très bonne journée, très bon vendredi et passez un très bon week-end. Attention, prudence, hein, Laurent Cabrol va vous le dire dans quelques secondes. Nous on se retrouve lundi à partir de 5h sur Europe 1 pour l'heure. C'est l'heure de retrouver Mathieu Béliard pour le 7-9. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Vendredi 2 octobre 2020 sur Europe 1, écoutez le monde changer. La distanciation sociale, les tests, les cas contacts, c'est devenu presque normal pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. C'est notre vie désormais. C'est aussi celle du président des États-Unis. Tiens, écoutez ce qu'il disait au cœur de l'été.
Oui, j'ai dit que le virus allait disparaître et je le dirai encore, ça va disparaître et j'aurai raison. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai raison, probablement, plus que quiconque.
Alors, je m'apprêtais à vous dire que Donald Trump est en quarantaine, qu'il a une collaboratrice qui a été testée positive. C'est l'info en direct, finalement. Tweet du président des États-Unis il y a de ça, 3 minutes, Donald Trump testé positif au coronavirus. On va en reparler, évidemment, ce matin. On va parler de la situation chez nous, hein, beaucoup. Alors que le sort des grandes agglomérations est suspendu aux courbes du week-end, Paris, par exemple, où l'on devrait normalement être en zone d'alerte maximale et donc fermé bars et restaurants, ce sera finalement tranché dimanche soir. On va vous expliquer la décision sur Europe 1 ce matin. À la une aujourd'hui, le discours d'Emmanuel Macron contre les séparatismes. Le président qui cherche sa ligne politique sur ces questions sensibles. Il cherche même ses mots. Pour Nicolas Bétou, l'édito politique, séparatisme, communautarisme, il faut nommer les choses et parler d'islamisme radical. À 8h15, l'invité politique d'Europe Matin, Marlène Schiappa, au micro de Sonia Mabrouk. Les grandes lignes de ce discours attendu du président, les annonces qu'il faut en attendre. Neutralité des services publics, financement des associations, écoles clandestines. Emmanuel Macron a beaucoup consulté pour préparer ce discours, ce texte, notamment l'Observatoire de la laïcité, dont le rapporteur général est mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40, Nicolas Cadenne. Voilà quelques éléments du programme. Il est 6h59. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Mathieu. Sale temps, gros temps sur la France. C'est vraiment une information très importante pour nous tous. Alors vous savez, la tempête Alex s'est manifestée dans la nuit. On en parle depuis 5h sur cette antenne. Cette tempête maintenant a tendance à un petit peu à s'apaiser et nous allons dans quelques instants y revenir plus largement avec Hélène Zélani, mais c'est une tempête assez puissante tout de même. Et puis les pluies traversent la France, des pluies quasiment continues sur de très nombreuses régions. Et il faut savoir que ces pluies vont arriver et vont se jeter sur les régions du Sud-Est. Et la vigilance rouge vient d'être mise sur les Alpes-Maritimes. Un mois de pluie en l'espace de quelques heures du côté de Nice et de Cannes. De grosses vagues, des risques de submersion, des routes côtières probablement impraticables, des orages très nombreux dans ce secteur des Alpes-Maritimes, mais aussi sur le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. À noter encore parmi ces orages, à noter encore des régions comme la Drôme, l'Ardèche ou des départements avec également énormément dans la vallée du Rhône, énormément de pluie. Et puis un dernier mot pour dire qu'à tous ceux qui habitent la région parisienne, par exemple, beaucoup de pluie ce matin, mais ensuite ça ira mieux, comme en Normandie, comme dans la vallée de la Loire et comme dans le centre.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, installez-vous confortablement ce matin. On écoute le monde changer. Il est précisément 7h.
186 km/h, vraiment bien confirmé à Belle-Île.
Il y a tout qui vole, c'est impressionnant.
Un vent a décorné les bœufs, la tempête Alex s'est donc abattue dans l'ouest de la France. Nous serons à Quiberon dès le début de ce journal. Olivier Véran temporise, le ministre de la Santé n'annonce pas pour l'instant de passage en alerte maximale ni de fermeture pour les restaurants, notamment à Paris. Tout va dépendre de l'évolution des indicateurs. Autant dire qu'à Marseille, ce deux poids deux mesures est très mal vécu.
Marseille devient un laboratoire. D'abord on voit ce qui se passe sur Marseille, on voit si les chiffres baissent. On ferme Marseille et ensuite donc, on décide sur le territoire les mesures à prendre. Et ça nous dérange beaucoup.
Dans ce journal, le discours d'Emmanuel Macron sur les séparatismes, l'un des plus attendus du quinquennat. Et puis, la fête de la science, demandez le programme. 4000 événements dans toute la France et pour la première fois, une programmation virtuelle.
Juste après ce journal, la fin des enchères pour la 5G. Tout le monde sort gagnant. L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Harvet. Et puis, dans le sport amateur, la crise sanitaire peut engendrer une vraie crise du bénévolat. L'édito sport de Virginie Fulpin, avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nom de code, Alex. Définition, phénomène météo exceptionnel. Une tempête avec des rafales particulièrement violentes sur le Morbihan. Plus de 80 interventions de pompiers. 80 000 personnes privées d'électricité ce matin. Tous les établissements scolaires fermés pour la journée. Record de vent absolue à Belle-Île. Bonjour François Coulon. Vous êtes à Quiberon, juste en face, où là aussi ça a soufflé très fort.
Oui, Quiberon sur ses gardes. Hier soir, vers 23h30, les gendarmes font la chasse aux inconscients.
Il faut vous ramasser, il y a un arrêté préfectoral.
Alors, sur la digue de Port-Maria, un chasseur de tempête, Alexandre, et son anémomètre, l'œil rivé sur les derniers relevés météo.
186 km/h, vraiment bien confirmé à Belle-Île. C'est incroyable.
Un homme pesant 80 kg sera très facilement emporté avec 180 km/h de vent.
Ça fait peur, c'est impressionnant, on se sent tout petit quand même. C'est la première fois que je vois autant de vent. J'ai jamais vu ça. On s'envole là.
Restez pas là. Ah ouais, là ça arrive, il y a eu 186 à Belle-Île. Là ça arrive. On entend les premiers objets volés. Il y a des gens qui sortent. J'espère qu'ils vont pas ramasser leur table maintenant, là c'est trop tard. Il y a tout qui vole. C'est impressionnant.
Ça souffle à combien là ?
150 km/h à peu près. Là on arrive dans le dur. Hein. Première coupure de courant. Il doit y avoir un câble haute tension qui a couché et puis voilà.
Le courant est finalement rétabli en 10 minutes, mais la tempête Alex restera ici dans les annales.
François Coulon à Quiberon pour Europe 1. Et si le Morbihan est repassé en orange ce matin, les Alpes-Maritimes sont désormais en alerte rouge. Pluie, inondation, tous les établissements scolaires vont rester fermés. On part tout de suite aux États-Unis où nous attend Xavier Yvon. On l'apprend à l'instant, Donald Trump est positif au Covid.
Oui, et on l'apprend de Donald Trump lui-même. Il a envoyé un tweet il y a exactement 7 minutes. Je vous le lis. Il dit « Ce soir, la première dame, donc Melania Trump et moi, nous avons été testés positifs pour le Covid-19. Nous allons commencer notre quarantaine et notre procédure de soins immédiatement. » Il conclut, nous nous sortirons de ça tous ensemble. Alors, ce qui s'est passé, il y avait beaucoup d'interrogations sur l'état de santé de Donald Trump ces dernières heures, puisque l'une de ses plus proches collaboratrices avait été elle-même testée positive au Covid-19 il y a quelques heures. Et il s'agissait vraiment du premier cercle. Hein. Elle s'appelle Hope Hicks. Elle est une fidèle parmi les fidèles de la famille Trump. C'est une ancienne mannequin. Elle est la communicante qui murmure à l'oreille du président américain. Et elle était avec lui à bord d'Air Force One pour aller au débat télévisé mardi à Cleveland, puis mercredi pour un meeting dans le Minnesota. On l'a vu aussi monter dans l'hélicoptère présidentiel, entouré de toute l'équipe des conseillers et à chaque fois sans masque. Les médias américains rappellent qu'à 74 ans, le président fait partie des personnes à risque.
Xavier Yvon en direct de New York pour Europe 1.
Les restaurateurs, ils vont devoir renforcer leur protocole sanitaire. On revient sur le sol français pour parler du Covid. Ils vont devoir revoir leur protocole sanitaire s'ils veulent rester ouverts dans les zones d'alerte maximale.
Oui, hier, Olivier Véran leur a accordé un sursis à Paris, mais aussi à Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse ou Saint-Étienne, ville qui pourrait donc passer en rouge écarlate dès la fin du week-end si les indicateurs ne s'améliorent pas.
Si ça devait se confirmer, nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la Petite Couronne en zone d'alerte maximale, et ce, dès lundi. Le passage en zone d'alerte maximale supposera que les habitants de Paris et de la Petite Couronne réduisent temporairement leurs interactions sociales. Plus de fêtes de famille, plus de soirées, fermeture totale des bars.
Fermeture totale des bars, prévient le ministre de la Santé, comme c'est déjà le cas à Marseille, où pourtant la situation sanitaire est en train de s'améliorer doucement.
Cafetiers et restaurateurs dénoncent une injustice et espèrent pouvoir relever le rideau le plus vite possible. Écoutez le reportage de Nathalie Chevance.
Frémissement, début d'embellie, mais toujours puni. Tel est le ressenti des cafetiers restaurateurs qui, malgré les derniers chiffres plutôt encourageants, ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir. Un deux poids deux mesures difficile à accepter.
On est les dindons de la farce. Moi, je pensais vraiment que si ils ne fermaient pas Paris, on nous dirait les chiffres baissent à Marseille et vous rouvrez lundi. Donc c'est encore du grand n'importe quoi. Pour quelle raison, nous et pas les autres?
On sent vraiment comme les cobayes vraiment de la France. Marseille devient un laboratoire. D'abord, on voit ce qui se passe sur Marseille, on voit si les chiffres baissent. On ferme Marseille et ensuite, donc, on décide sur le territoire les mesures à prendre. Et ça nous dérange beaucoup.
Et à la région Sud, le président Renaud Muselier maintient la pression. Visioconférence ce matin avec le ministre de la Santé, qui n'est pas épargné.
Monsieur Véran, il est entêté. Je pense qu'il s'est un peu emballé et qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Et comme il ne veut pas se déjuger, il s'entête. Ça, c'est une faute politique. Et c'est surtout une faute économique. Et c'est une faute médicale. Et c'est une faute de santé publique. Il va y avoir de nouveau une explication de texte. On lâche rien. On a nos critères en dessous des seuils d'alerte. Pourquoi allons-nous encore ce week-end être fermés? Comme nous avons été les bons élèves, on n'a pas à être punis.
Et les cafetiers restaurateurs viendront manifester à l'heure du déjeuner devant la préfecture avec des casseroles. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et parmi les nouvelles mesures que les restaurateurs veulent proposer pour éviter la fermeture, la prise de température des
clients ou encore le recueil de leurs coordonnées pour pouvoir les prévenir en cas de contamination.
7h06 sur Europe 1, 10h30 ce matin, Emmanuel Macron sera à la mairie des Mureaux dans les Yvelines pour présenter sa stratégie contre les séparatismes.
Oui, notamment celui de l'islamisme radical, projet de loi plusieurs fois reporté. Jean-Rémy Baudeau, le président s'attaque au communautarisme, un dossier ultra sensible.
Oui, c'est même l'un des sujets les plus attendus du quinquennat, un sujet sans cesse repoussé ces derniers mois. Emmanuel Macron utilise sciemment le pluriel pour parler des séparatismes, pour ne pas avoir l'air de stigmatiser telle ou telle religion. Mais en réalité, la cible principale est bien connue. L'islamisme, c'est le premier séparatisme contre lequel il faut lutter, précise un proche du président. Ce matin, Emmanuel Macron va dénoncer ceux qui dévoient la religion pour remettre en cause les valeurs de la République, explique l'Élysée. Selon nos informations, il devrait notamment insister sur la neutralité des services publics. Les préfets pourront retirer des délégations en cas de manquement. Et sujet encore plus explosif, la réforme de la loi de 1905. Il devrait annoncer l'obligation de déclarer la provenance des financements étrangers. Emmanuel Macron, conscient que le sujet est inflammable, prévoit de longuement répondre aux questions des journalistes. Un exercice plus libre sur la forme. Une manière de tenter de tuer les polémiques qui pourraient monter après ces annonces.
Jean-Rémy Baudeau, Emmanuel Macron devrait également annoncer un contrôle plus strict des écoles privées hors contrat et de l'instruction à domicile. On va y revenir dans le journal de 8h.
Et Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, sera l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin à 8h15 sur Europe 1.
C'est oui ou c'est non. La Nouvelle-Calédonie vote pour son indépendance dimanche. Et cela 2 ans après un premier référendum d'autodétermination. À l'époque, le non l'avait emporté à 56%. Bonjour Mathieu Bock.
Bonjour.
Quelle est la tendance à 48 heures du scrutin ?
Eh bien, il n'y a aucun sondage. Tous les observateurs pensent que le non à l'indépendance devrait à nouveau l'emporter. Et tout l'enjeu sera d'ailleurs d'observer assez finement le score. Car il y a 2 ans, le seul et unique sondage avait donné les partisans de la France à plus de 70%. Alors quand ils ont gagné avec seulement 56,7% des suffrages, cela a résonné comme une victoire pour les indépendantistes qui pensaient avoir perdu d'avance et qui disent aujourd'hui bénéficier d'importantes réserves de voix.
Et si les indépendantistes gagnent, est-ce que ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie va devenir un nouveau pays ?
Alors oui, mais pas du jour au lendemain. Les indépendantistes demandent une période de transition de 3 ans. Ils promettent que la France ne sera pas chassée de Nouvelle-Calédonie, mais qu'il va falloir lui trouver une nouvelle place, projet qui paraît encore bien flou aux yeux de leurs adversaires. Si le non à l'indépendance l'emporte, un 3e référendum est prévu d'ici mars 2022, et ce serait le dernier, quoi qu'il arrive. Les deux camps devraient alors inventer une nouvelle solution politique, quelque chose qui n'existe pas encore, afin de continuer à vivre ensemble.
Mathieu Bock.
La science vous intéresse ? Ça tombe bien. Elle est à la fête à partir d'aujourd'hui.
Oui, visite de laboratoires, de musées, conférences, balades thématiques, quelques 4000 événements dans toute la France pour cette 29e fête de la science qui fera la part belle au virtuel. Vous pourrez ainsi suivre des émissions tous les jours sur la chaîne YouTube Science en Direct pour plonger au cœur de la recherche médicale, y compris sur des sujets de notre quotidien lors d'Autriche.
Les chercheurs ouvrent les portes de leur laboratoire, racontent leurs découvertes. Christophe Bernard, directeur de recherche à l'INSERM, présentera un quiz retransmis en direct sur Internet sur le sujet suivant. Le café est-il bon pour l'organisme ? Il a des effets bénéfiques que l'on connaît peu.
La caféine apporte des bénéfices au niveau de la mémoire et de l'apprentissage chez l'adulte. Ça a même des effets bénéfiques chez des patients Alzheimer.
Mais attention, la caféine à haute dose est toxique. Il ne faut pas dépasser 3-4 expressos par jour, dit l'Organisation mondiale de la santé. Armelle Rancillac, chercheure en neurosciences au Collège de France, parlera, elle, du sommeil. En profondeur dans notre cerveau, des cellules changent de forme pendant notre sommeil.
C'est ça qui fait que si jamais on a un sommeil plus hachuré, plus fragmenté, on ne va pas jusqu'au bout des mécanismes morphologiques de changement comme ça, de forme des cellules. Et du coup, ça va participer à peut-être des troubles du sommeil type insomnie.
Et en comprenant mieux ces mécanismes dans le cerveau, on pourrait à l'avenir être plus efficace dans notre sommeil et donc mieux dormir.
Voilà, ça c'est pour nous Mathieu et pour tous les leftos qui nous écoutent.
Il y en a.
Il y en a sans doute. La fête de la science. Et donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 octobre, ajoutons quand même qu'à Roland-Garros, 3 Françaises vont disputer le 3e tour. Alizée Corneille et la jeune Clara Burel ont rejoint Caroline Garcia. Chez les messieurs, le seul rescapé, Hugo Gaston, affronte tout à l'heure le Suisse Wawrinka.
Vous ne buvez pas de café, vous, Hélène Delany ?
Moi, c'est du
thé. C'est le thé le matin. Il y a le choix, thé ou café, évidemment. Moi, c'est un peu des deux le matin et j'en ai bien besoin. Merci, Hélène Delany. Vous êtes sur Europe 1, c'était le journal de 7h.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Que faut-il attendre du discours d'Emmanuel Macron sur les séparatismes ? Neutralité des services publics, financements étrangers, des associations, écoles clandestines, certaines mesures annoncées impliquent une modification de la loi de laïcité de 1905. Ce matin, je reçois Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Il a été consulté par Emmanuel Macron à 7h40, le tête-à-tête Europe Matin. Mais tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouette. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, c'est l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Ce fut rapide. La vente aux enchères des fréquences 5G s'est terminée hier et les opérateurs de télécom s'en sortent bien.
Oui, s'il fallait absolument désigner un perdant dans ces enchères, ce serait l'État, puisque la vente des fameuses fréquences ne lui rapporte que 2,8 milliards d'euros. On est dans la fourchette basse de ce que Bercy pouvait espérer. C'est une bonne nouvelle pour les opérateurs, en revanche, et en particulier pour Orange, qui a remporté plus de fréquences que ses concurrents, et pour pas très cher. Et après tout, comme l'État est actionnaire d'Orange à 23%, et finalement, il ne fait pas une si mauvaise affaire.
Et en fait, tout le monde y gagne.
C'est un peu ça. Alors, nos quatre opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free ont augmenté la taille de leur réseau pour un prix raisonnable par rapport à ce qu'ont payé leurs concurrents étrangers. Ça, c'est important à souligner. En Allemagne, les opérateurs ont payé 20% plus cher. En Italie, le pire exemple, ils ont payé 3 fois plus. Alors, c'est très bien pour l'État italien, mais catastrophique pour le développement de cette technologie parce que l'achat des fréquences n'est que la première étape d'une longue route. Le déploiement des réseaux sur les territoires français est un énorme chantier. Chaque opérateur, ça fait partie du cahier des charges, va devoir implanter 3000 nouvelles antennes l'an prochain, 8000 l'année suivante, 12000 en 2025. Et à 200 000 euros l'antenne, eh bien, on arrive vite à plusieurs milliards d'euros.
D'où, on l'imagine, des forfaits mobiles plus chers ?
Oui, d'autant que nous sommes un des pays d'Europe où ces forfaits sont les moins chers actuellement. Il faut donc s'attendre à ce que les prix augmentent. C'est l'intérêt bien compris des quatre opérateurs qui ne sont plus dans la logique de guerre des prix qu'ils prévalaient il y a quelques années. Cela dit, l'enjeu de la 5G est ailleurs. C'est un moyen de mieux organiser la production industrielle, mieux gérer les flux de marchandises, de camions par exemple, permettre de développer la voiture autonome, etc. etc. La 5G est moins faite pour les consommateurs que pour les industriels. Elle permettra d'améliorer au fond les manières de produire, par exemple en utilisant moins d'énergie, on a tendance à l'oublier. C'est un outil de productivité. Bref, le contraire d'un gadget qui ne servirait qu'à regarder des vidéos.
Merci Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouette, à présent il est 7h16. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La Turquie au centre du Conseil européen. Et une fois de plus, la France en pointe sur ce dossier.
Emmanuel Macron a donné le ton en débarquant à Bruxelles. La solidarité avec Chypre et la Grèce n'est pas négociable, a-t-il dit. Avis à tous ceux qui ont regardé ailleurs, quand la marine turque a commencé à sonder les fonds marins de ses voisins orthodoxes à la recherche de gaz et de pétrole. En août, face aux gesticulations turques, Paris avait envoyé un porte-hélicoptère d'assaut, une frégate furtive et 2 rafales en renfort. C'est la version musclée de la solidarité qui n'est pas négociable. Hier, le président a aussi confirmé qu'Ankara acheminait en Azerbaïdjan une légion d'horreur des centaines de djihadistes qui se sont fait la main dans la guerre civile en Syrie. Des mercenaires sans état d'âme pour écraser les Arméniens du Karabakh. Les mêmes que la Turquie a installés en Libye, exportant ainsi une milice islamiste au Maghreb qui n'a pas besoin de ça. En juin, la frégate Courbet a été mise en joue par des navires de guerre turcs et depuis, plus personne n'ignore que la Turquie viole l'embargo sur les armes en Libye. Et à l'évidence, Paris s'est ainsi spécialisé dans ce rôle très particulier de démasquer Recep Tayyip Erdogan, de mettre en pleine lumière les menaces qu'il fait peser sur la Méditerranée, sur le Proche-Orient et sur le Caucase.
Pourquoi la France fait-elle cela ?
Eh bien parce que l'Amérique ne veut pas le faire. Donald Trump et Joe Biden s'en lavent les mains parce que l'Allemagne ne peut pas le faire. Près de 3 millions de Turcs vivent outre-Rhin et ça explique qu'Angela Merkel fasse la danse du ventre face à Erdogan. Elle lui a confié les clés de l'immigration en Europe et elle tente désormais une médiation entre Athènes et Ankara, semblant ainsi renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé. Alors que la crise en Méditerranée n'est pas un conflit gréco-turc, mais bien une attaque contre le droit maritime et l'ordre international.
Paris croit qu'il vaut mieux tenir tête à Erdogan.
Lui rappeler les lignes rouges, Autrement, il fera monter les enchères. Il pourrait, par exemple, prendre un gage territorial, occuper une île grecque, et l'Union européenne serait totalement piégée. Le calcul français, c'est d'être ferme aujourd'hui pour négocier demain un partage équitable des fonds marins. Et si ça marche, eh bien la France sera pardonnée d'avoir, il y a 20 ans à Helsinki, forcé l'Union européenne à ouvrir sa porte à la Turquie.
Merci Vincent Hervouet. Il est 7h18.
Le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Ce matin, vous voulez attirer notre attention sur le sport amateur qui vit une période particulièrement difficile. Pour vous, la crise sanitaire peut engendrer une vraie crise du bénévolat. Ces gens qui s'impliquent dans les clubs, les associations, et qui pourraient être tentés de jeter l'éponge.
Mais les bénévoles se sentent seuls, hein, démunis. Ce week-end, vous serez nombreux à vouloir aller faire du sport. Vous aurez 1000 questions à poser sur la situation actuelle et les bénévoles seront bien en peine de répondre. Est-ce que le gymnase est ouvert et la piscine? Ça dépend des zones, ça dépend des âges des pratiquants, ça dépend s'il y a un toit ou pas. Il y a beaucoup de flou depuis une semaine. Alors aujourd'hui, il y a des régions où les préfectures ont éclairci la situation, mais pas partout. Et on a besoin d'une harmonisation. Pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose à la logique générale dans les salles et sur les terrains de sport. C'est déroutant pour les sportifs et aussi pour les bénévoles, vu qu'ils sont les interlocuteurs numéro un des parents, notamment des enfants inscrits dans un club. Alors je sais qu'on traverse une crise sanitaire et que les mesures de précaution sont indispensables. Mais ces bénévoles sont en première ligne d'un combat pas assez clair, avec le sport qui est trop souvent vu comme un risque potentiel, point barre. Ça va finir par en décourager plus d'un. Ils peuvent aussi avoir du mal à comprendre la différence de traitement entre le sport amateur et le sport professionnel. Les pros ont repris une vie à peu près normale, je dis bien à peu près, alors que pour les amateurs, on fait comme si les salles de sport n'étaient que des machines à cluster en puissance. Deux poids, deux mesures entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Là encore, il y a de quoi baisser les bras.
Et puis l'ambiance actuelle autour du sport peut aussi lasser ces bénévoles.
Il faut dire que c'est pesant. Entre des intellectuels qui ciblent gratuitement le sport dans une tribune à charge contre Paris 2024, certains élus qui spellent Tour de France, d'autres qui soulignent que presque tous les terroristes sont passés par des clubs de sport. Franchement, quand vous faites partie du mouvement sportif, vous passez votre temps à subir des attaques de bas étage. Burk, le sport, ce truc un peu honteux, vous savez. Alors vous croyez qu'ils le vivent comment, ceux qui œuvrent au quotidien dans des associations sportives et qui voient déjà le nombre d'adhérents diminuer dangereusement avec la crise? Si on n'arrive pas à convenir ensemble de l'importance du sport pour la santé, le bien-être, la sociabilisation, et si on ne prête pas un minimum d'attention à ceux qui le font vivre, dans les clubs et les associations, les bénévoles, oui, vont finir par jeter l'éponge. Et à terme, on ne pourra pas se plaindre de ne plus entendre de Marseillaise sur les podiums, parce que c'est ça aussi l'enjeu, tout part du sport amateur.
Merci Virginie Fulpin, c'est dit, c'est l'édito sport et c'est tous les matins sur Europe 1. 7h23, à présent nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dernier jour de la semaine,
et oui.
Mais en écoutant votre matinale, force est de constater que vous avez encore de l'énergie à revendre. Je sais pas comment vous faites. Vous n'êtes pas du tout au bout du rouleau. Mais pourquoi cette expression? Eh bien, imaginez-vous qu'elle date du XIVe siècle. Les livres ne ressemblent pas à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Autour d'un bâton d'ivoire ou de buis, on y enroule des feuilles écrites sur un seul recto collé et mises bout à bout. On appelle ça des rôles. Au théâtre, d'ailleurs, les dialogues sont écrits sur ces fameux rôles. On jouera donc un rôle, et dans une pièce, quand un acteur a peu de choses à dire, on appelait ça un rôlet. Dans la vie courante, quand une personne ne savait pas quoi dire ni comment réagir, on disait qu'elle était au bout de son rôlet.
Et l'expression n'est pas restée cantonnée au théâtre, Stéphane.
Exactement, Mathieu. Au XIXe siècle, le rôlet se transforme définitivement en rouleau. Les banquiers mettant des pièces dans des rouleaux en papier, les personnes n'ayant plus d'argent étaient au bout du rouleau. Aujourd'hui, cela exprime une extrême fatigue. En Tunisie, comme en France d'ailleurs, on dit être sur la jante. En Allemagne, on dit « siffler au dernier trou ». Voilà qui est bien mystérieux. Et nos ados, car après tout, c'est eux qui aujourd'hui inventent les expressions de demain, ils disent « être au bout de ma vie ». Enfin, de la leur, pas de la mienne.
À 16h, historiquement vôtre, Stéphane Bern.
Oui, le programme du jour, on va danser en ce vendredi. Danser avec l'histoire, danser avec les stars, et pas n'importe lesquels. On réunit le roi danse Louis XIV, le sculpteur Rodin, qui n'a pas fait que penser, et John Travolta sur notre dance floor cet après-midi. Au programme, du menuet, de la danse contemporaine et du disco, évidemment. On vous raconte l'histoire à petits pas et en faisant le grand écart tout à l'heure, 16h-18h sur Europe 1 avec Mathieu Noël.
À tout à l'heure Stéphane. 7h25 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous à suivre la météo, Laurent Cabrol, un nouveau journal avec Sophie Echen. Très bon réveil à toutes et à tous. 7h28 sur Europe 1, 29 presque, allez, dans 5 secondes. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo et on vous attend, Laurent, ce matin. Bonjour. C'est de l'actualité météo aussi.
C'est un très très gros temps. Alors, trois informations. La première, c'est qu'une perturbation traverse la France. Cette perturbation est énorme, elle mesure à peu près 300 km. Ça veut dire que vous avez 300 km de pluie qui vont passer au-dessus de votre tête. Alors, à un moment, certains d'entre vous l'auront ce matin, d'autres cet après-midi. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la fameuse tempête Alex que l'on suit depuis ce matin. Elle commence un peu à s'apaiser quand même, les vents sont autour de 130, ce qui n'est pas n'importe quoi, mais ils ont atteint les 186 km/h à Belle-Île notamment. Donc ça va un petit peu mieux côté Alex puisque ça s'éloigne. Et puis maintenant, la nouvelle inquiétude, c'est une alerte rouge qui a été émise sur les Alpes-Maritimes avec un mois de pluie qui vont tomber dans la journée et puis surtout avec des vagues qui arrivent par le sud, c'est-à-dire par la Méditerranée, des vagues de sud, ça veut dire que les routes côtières, les voies ferrées, seront submergées. Et donc une circulation extrêmement difficile dans ce secteur. Sont classés en rouge les Alpes-Maritimes et en orange le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Beaucoup de pluie dans ces contrées. Une petite amélioration quand même, allez, je la donne, parce que ce sera très sympathique pour vous. Si vous habitez des régions comme le Centre, la Vallée de la Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France et la région de Normandie, où dans l'après-midi, nous aurons quand même quelques accalmies avec peut-être même des éclaircies.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Sophie Echen, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le journal sur Europe 1, il est 7h30.
This is a Fox News alert. I'm Ashley Strohmeyer live from New York. President Trump just tweeted moments ago that he and the First Lady have tested positive for the coronavirus.
C'est une alerte de dernière minute. Le président américain vient de tweeter. Il a été testé positif au coronavirus. Même chose pour son équipe, pour son épouse. Les médias américains viennent de nous apprendre que Donald Trump, le président américain, vient d'être donc testé positif au nouveau Covid-19. L'INSERM lance un appel aux volontaires pour tester différents projets de vaccins contre le coronavirus, un appel y compris aux plus âgés qui représentent la grande majorité des décès. Des arrêts maladie facilités pour les cas contacts, finis les jours de carence pour ceux qui étaient dans l'incapacité de télétravailler. La question du financement des mosquées par les pays étrangers au cœur du discours très attendu d'Emmanuel Macron contre les séparatismes ce matin. Et puis le tirage au sort de la Ligue des champions de football, l'OM, le PSG et le Stade Rennais vont devoir serrer les dents.
Vous en parliez Sophie, nous allons longuement revenir sur le discours attendu du président contre les séparatismes juste après ce journal. Je reçois Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, invité du tête-à-tête Europe Matin. Parler de séparatisme, c'est éviter de dire ce que l'on veut combattre, l'islamisme, l'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Et ce matin, c'est Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On l'a appris il y a moins d'une heure, Donald Trump est positif au coronavirus. Même chose pour sa femme Melania, annonce du président américain lui-même ce matin sur Twitter. L'une des proches collaboratrices de Donald Trump avait été diagnostiquée positive il y a quelques jours. Le médecin de la Maison-Blanche assure qu'il va bien et qu'il continuera à assurer ses fonctions. Le couple présidentiel s'est d'ores et déjà mis en quarantaine. Donald Trump annule son déplacement en Floride, prévu aujourd'hui.
L'actualité en France, c'est la course au vaccin, bien sûr, contre le coronavirus. L'INSERM a lancé hier un appel aux Français pour tester un de ses projets de vaccin.
Et en quelques heures, plus d'un millier de personnes se sont inscrites sur la plateforme en ligne mise en place par l'Institut. Et certains de ces tests ont déjà commencé, Jean-Gabriel Bourgeois.
Donner un peu de son temps et de son corps pour la recherche, Joseph n'a pas hésité longtemps. Après une visite médicale très complète, première injection hier matin.
Après l'injection, on doit rester une heure sur place. On reprend les constantes, on revoit le médecin. J'ai aucun effet secondaire, ni physique, ni visible. Tout se passe bien.
Ce n'est qu'à la fin de l'essai clinique que Joseph saura s'il a reçu un placebo. Pour être candidat au vaccin, il suffit d'être majeur. Et le profil qui intéresse particulièrement les scientifiques, ce sont les seniors. Le professeur Odile Launay coordonne la plateforme de l'INSERM.
95% des décès sont survenus chez les plus de 65 ans. Donc on a absolument besoin de vérifier l'efficacité de ces traitements dans les populations qui sont les plus à risque d'être infectées par le virus et surtout de faire des formes graves.
Le plus souvent, les volontaires le font par altruisme, ajoute-t-elle. Ils ne sont pas rémunérés, mais perçoivent une indemnisation pour le temps passé, quelques dizaines d'euros par essai.
Un peu de sursis pour Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne. Le ministre de la Santé se donne jusqu'à lundi pour observer l'évolution de l'épidémie et décider donc si ces six métropoles basculent ou non en zone d'alerte maximale, ce qui pourrait entraîner de nouvelles restrictions.
Autre annonce d'Olivier Véran hier, les salariés reconnus comme cas contact pourront être mis en arrêt de travail sans jour de carence si la solution télétravail est impossible pour eux. Pour cela, ils n'auront qu'à se connecter sur le site de la Sécurité sociale et pourront télécharger directement leur arrêt de travail. Olivier Samin.
Oui, c'est exactement ça. À compter du 3 octobre, autrement dit à partir de demain, si vous avez été déclaré comme personne contact, contrainte du coup à l'isolement, et si vous ne pouvez pas faire du télétravail chez vous, vous allez pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire et votre indemnisation par l'assurance maladie démarrera immédiatement. Il n'y aura pas de jour de carence. Alors comment procéder ? Pas la peine de prendre rendez-vous chez votre médecin. Il vous suffira d'aller sur le site déclare.amélie.fr pour obtenir en ligne une prescription d'isolement que vous enverrez à votre employeur comme justificatif. Cette prescription déterminera les dates de l'arrêt de travail. L'assurance maladie contrôlera simplement le fait que vous avez été recensé comme cas contact à risque.
7h34 sur Europe 1. L'autre grand titre de l'actualité de ce vendredi 2 octobre, c'est le discours très attendu d'Emmanuel Macron sur les séparatismes.
Et parmi les sujets abordés, la question du financement des mosquées, notamment par les pays étrangers. On va s'intéresser à celle d'Angers, toujours en travaux. Elle pourrait bientôt être cédée au Maroc pour terminer sa construction. Hélène Tarzian.
Une mosquée qui s'étend sur 2200 m² pour accueillir plus de 2000 fidèles. L'édifice est encore en chantier, mais il manque 4,5 millions d'euros pour l'achever. Seul le Maroc propose de mettre la main à la poche, une opportunité pour le président de l'Association des musulmans d'Angers, Mohamed Briouat.
L'intérêt de cette opportunité, c'est d'apporter les fonds nécessaires et garantir la fin d'achèvement des travaux au plus vite. Également, la sécurité et la garantie qu'apporte le Maroc, un pays ami de la France. Et cette convention, elle est tout à fait lisible et visible dans le temps.
Justement, à Saint-Étienne, la grande mosquée inaugurée il y a 8 ans est financée par le Maroc. Le maire LR, Gaël Perdriau, rappelle l'importance de bien connaître la source des fonds étrangers.
Les relations sont excellentes avec le recteur, avec l'imam qui fait des prêches en français. Connaissant l'origine des fonds, il y a aussi un aspect extrêmement rassurant parce qu'on sait que le Maroc pratique un islam ouvert, universel, contrairement à certains réseaux islamistes, salafistes, qui utilisent la religion à des fins politiques.
Et c'est bien l'un des axes du gouvernement, ne pas interdire les financements étrangers, mais exiger leur transparence.
Le Morbihan rétrogradé en alerte orange au vent violent, alors que la tempête Alex balaye toujours les côtes bretonnes. 80 000 foyers sont privés d'électricité. Vigilance rouge, pluie, inondation dans les Alpes-Maritimes, en revanche.
Le football. Les trois clubs français engagés en Ligue des Champions auraient peut-être préféré une entrée en matière plus douce.
Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais ont évité le pire, mais les formations tricolores auront du fil à retordre et ce, dès les premiers matchs. Paris, dernièrement en finaliste, retrouvera notamment Manchester United. Et Julien Froment, la dernière visite des Red Devils au Parc des Princes en 2019 n'avait pas forcément laissé un très bon souvenir.
C'est terminé! Tout le monde exulte du côté de Manchester United! Les joueurs de Paris sont tous à terre!
Manchester United, ça rappelle forcément des mauvais souvenirs au Paris Saint-Germain avec cette élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'était en 2019. Mais depuis, Paris, finaliste l'été dernier, a changé de statut. L'heure de la revanche a donc sonné. Autre retrouvaille en vue, les Allemands de Leipzig que le PSG a éliminé cet été en demi-finale. Et puis, un club inconnu, Istanbul Başakşehir, qui découvre la compétition. L'analyse du capitaine parisien Marquinhos.
Comme d'habitude, c'est pas un groupe facile. Leipzig qui a fait un match contre nous très difficile. Manchester, il y a rien à dire. C'est une équipe historique. Il faut qu'on continue dans la lancée. Cette compétition, elle est magique.
Pour les deux autres clubs français, le menu est copieux. L'Olympique de Marseille, absent de la compétition depuis 2013, aura face à lui le Manchester City de Pep Guardiola, le FC Porto et les Grecs de l'Olympiakos. Quant à Rennes, tout nouveau dans la compétition, Chelsea, Séville et les Russes de Krasnodar se dressent sur sa route. Si les deux formations peuvent rêver des huitièmes de finale, leur objectif sera surtout la troisième place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa.
Eh ben allez, on croise les doigts pour eux. Julien Froment.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h40. Séparatisme, communautarisme, lutte contre l'islam radical. À quelques heures du discours d'Emmanuel Macron, on détaille les enjeux de ce discours à venir avec mon invité Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Nicolas Cadenne.
Bonjour.
Dans ses premières prises de parole, le président de la République parlait de séparatisme au pluriel. Il parlait des sectes, des suprémacistes blancs, des écoles catholiques extrêmes, des évadés fiscaux, de l'islam bien sûr. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de recentrer le débat, de dire clairement qu'on parle aujourd'hui d'islamisme radical.
Il y a toujours des séparatismes, mais effectivement, il y a un islamisme radical qui est aujourd'hui le plus dangereux. On le voit bien parce que il y a des dérives qui peuvent mener au terrorisme et on a encore malheureusement eu dernièrement un exemple de cela. Et donc c'est pour cela, bien sûr, que c'est le premier ennemi.
Quand vous dites dernièrement un exemple de cela, vous parlez de l'attentat à Charlie la semaine dernière dans les anciens locaux de Charlie. D'accord. Vous êtes au cœur du dossier, Nicolas Cadenne, bien sûr. Vous avez été consulté par le président de la République et ses services. Vous avez formulé des propositions. Qu'attendez-vous du président d'Emmanuel Macron dans son discours au Mureau aujourd'hui ?
Alors, l'Observatoire de la laïcité a émis des préconisations. Il ne préjuge pas de ce que va être dit par le président, mais effectivement, certaines préconisations vont sans doute être reprises dans le futur projet de loi qui permettront notamment, vous en avez dit un mot, je pense, avant, des distinctions plus claires entre les associations, notamment qui gèrent du culte et celles qui font du socioculturel pour qu'il y ait une vraie transparence et qu'il n'y ait pas de confusion des genres et qu'il n'y ait pas de subventionnement public indu, mais aussi des dispositions qui vont permettre de sanctionner plus clairement, plus durement tous ceux qui imposeraient des pratiques à autrui, qui contraindraient autrui.
Pour être clair, pour nos auditeurs, aujourd'hui, les associations cultuelles religieuses sont sous la loi de 1905. Les autres, celles qui peuvent mélanger
beaucoup,
des pratiques, ouais, voilà, sont sous celle de 1901. Est-ce qu'on veut les inciter, votre préconisation, les inciter à passer sous le régime de 1905 ou les obliger ?
Ça serait un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les contraintes qui pèsent sur les lois 1905 s'imposeraient aux lois 1901 qui font du culte sans qu'elles ne disposent d'aucune des garanties et d'aucun des avantages des lois 1905. Donc, si vous voulez, ces lois qui aujourd'hui ont quelques avantages en restant en loi 1901 n'en auraient plus aucun. Elles seraient lourdement contrôlées sans avoir les moindres avantages de la loi 1905. Donc, elles auraient évidemment automatiquement toute raison de se mettre en loi 1905.
Ces dernières années même, on a parlé d'interdire les financements étrangers. Là, cette solution permettrait de les laisser autoriser, mais de les contrôler.
Oui, parce qu'en plus, l'interdiction des financements étrangers, c'est complexe. Tous les cultes, et pas que des cultes, mais tous les cultes en l'occurrence, reçoivent des financements étrangers qui ne posent pas toujours le moindre problème. Ce qui est important, ça a été un peu dit d'ailleurs par le maire tout à l'heure, c'est de connaître la transparence de ces fonds, de savoir d'où ils viennent et d'être sûr qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'emprise idéologique étrangère, extérieure. Par exemple, quand on constate en effet que la Turquie actuelle a tendance à utiliser ses imams détachés, c'est-à-dire des fonctionnaires de chez lui qui sont imams, qui viennent exercer en France, comme vecteur de politique, d'idées nationalistes turques en France, c'est un problème. Et c'est pour cela d'ailleurs que le président de la République a souhaité mettre un terme à ce stade aux imams détachés qui viennent de Turquie, parce qu'ils deviennent vecteurs d'une idéologie nationaliste. Donc c'est ça auquel il faut faire très attention, pas d'ingérence étrangère.
Il y a un sujet aussi autour de l'instruction. On s'intéressera sans doute aujourd'hui aux écoles privées hors contrat. Je voulais vous poser la question, Nicolas Cadenne. Est-ce que le problème se situe dans des écoles privées hors contrat musulmanes ou est-ce qu'il se trouve plutôt dans ce qu'on a appelé des écoles clandestines, des enfants déscolarisés, pas toujours déclarés, qui ont parfois droit à un enseignement à la maison ?
Vous avez tout à fait raison. Le principal problème réside en effet dans ce qu'on appelle l'enseignement à domicile avec la constitution de fait, parfois, d'écoles clandestines, effectivement. Les écoles hors contrat peuvent quand même poser des difficultés, mais nous avons pu obtenir un renforcement des contrôles via la loi Françoise Gatel en 2018, qui déjà nous donne plus de moyens, État, pour contrôler ces établissements hors contrat. Mais la vraie difficulté, c'est l'enseignement à domicile parfois avec la constitution d'écoles clandestines au sein d'appartements parce que, eh bien, les autorités académiques et préfectorales, voire même les mairies, n'ont pas connaissance de la déscolarisation des enfants concernés et du coup ne mènent pas de contrôle contre ces écoles clandestines et dans lesquelles peuvent être enseignées des valeurs complètement contraires, bien sûr, à celles de la République.
Il y a des voix qui s'élèvent contre ce discours, cette volonté de parler de séparatisme, on parle de stigmatisation, et je vais reprendre un exemple parmi d'autres, mais ce communiqué de la Ligue des droits de l'homme qui dit en substance « la loi suffit, il suffit de faire appliquer la loi ». Nicolas Cadenne, vous connaissez bien ces sujets. Pour lutter contre les dérives, contre l'islamisme radical, est-ce qu'il y a déjà ce qu'il faut dans nos textes ?
Il y a des choses qui existent, c'est vrai, mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Nous avons nous-mêmes obtenu par des circulaires ministériels des renforcements de contrôle dont je parlais, mais aussi contre toute atteinte aux exigences minimales de la vie en société. Mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Typiquement, l'article 31 de la loi de 1905 qui va permettre justement de sanctionner une personne qui oblige une autre personne à une pratique religieuse ou à toute pratique religieuse quelconque. Eh bien, cet article aujourd'hui, il est mal appliqué pour des raisons purement techniques, une condamnation, une sanction qui n'est pas bien définie dans le code pénal, et aussi parce qu'il est trop général. Donc, il suffirait de l'amender très légèrement pour, en effet, avoir une applicabilité bien, bien, bien meilleure, oui, bien plus effective. Donc, il y a quand même des ajustements techniques qui relèvent de la loi, qui doivent absolument être adoptés.
Je voulais précisément vous poser la question, Nicolas Cadenne, parce qu'on nous le rappelle à l'envi, le texte de 1905 a déjà été modifié 17 fois, ce ne serait qu'une 18e. Est-ce que modifier amender, c'est le verbe que vous avez utilisé, le texte de 1905, c'est anodin ?
C'est pas anodin, c'est pour ça qu'en effet, il ne faut amender que des aspects techniques, comme l'exemple que je viens de vous donner là, notamment donc sur les titres 4 et 5 de la loi, les titres 4 sur les associations cultuelles, on en a dit un mot tout à l'heure, pour assurer une meilleure transparence des fonds et mieux contrôler leur financement, et le titre 5 sur la police des cultes, donc typiquement pour mieux sanctionner les personnes qui contraignent autrui à une pratique cultuelle, religieuse. Ça, c'est des aspects techniques importants qu'on peut retoucher, mais il faut surtout pas briser l'équilibre de la loi de 1905 qui permet de garantir les libertés dès lors qu'est respecté le cadre collectif. Et donc, il ne faut surtout pas amender les articles 1, 2 et 4 en particulier, qui sont vraiment les principes fondamentaux de cette loi et qui n'ont jamais, sur le coup, été retouchés.
Est-ce que, Nicolas Cadenne, notre démocratie, notre République est aujourd'hui vraiment mise en danger par ces séparatismes ?
Elle peut l'être si, en effet, on n'y prend pas garde et qu'on ne se rend pas plus efficace face à ces séparatismes, en effet, au pluriel. Donc il faut être vigilant, bien entendu, sans pour autant tomber dans toutes les surenchères qui, elles aussi, pourraient mettre en danger notre équilibre constitutionnel et notre état de droit. Mais effectivement, il faut prendre les mesures pour être mieux armé contre certains séparatismes aujourd'hui.
Merci Nicolas Cadenne.
Merci à vous.
Rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, consulté parmi d'autres par le président de la République pour ce discours attendu ce matin au Mureau contre le séparatisme. 7h48.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ça, c'est du Camus, vous le savez. Ça pourrait être du Bétou. Séparatisme, communautarisme, c'est éviter de dire islamisme radical, l'édito politique à suivre. Avant de retrouver Nicolas Cantelot sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est donc le jour J pour le grand discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme.
Oui, et il a été silencieux depuis si longtemps, le président de la République, qu'il aura certainement beaucoup de choses à dire. Il a en effet repoussé plusieurs fois son rendez-vous avec les Français sur un sujet qui pourtant les taraude. Et comme nous vivons dans un moment marqué par le procès Charlie Hebdo, par l'attentat de vendredi dernier et par la réactivation de la menace islamiste, eh bien la pression sera forte.
Et on sait pourquoi Emmanuel Macron a attendu jusque-là.
Par prudence. En France, la question de la laïcité est devenue une sorte de monument qu'on ne déplace qu'avec crainte. La loi de 1905 qui organise la séparation de l'Église et de l'État a beau avoir été modifiée une bonne quinzaine de fois, elle est réputée intouchable. Et nous, Français, avons tellement théorisé la laïcité, le rapport à la religion, la place du sacré dans notre vie publique et la liberté de croire ou de ne pas croire que chaque initiative provoque des débats interminables. Regardez, par exemple, la question du voile pour les mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Que de querelles ! Avec un résultat, c'est qu'on n'aborde ces sujets que la main tremblante, ou plutôt, le résultat, c'est qu'on ne les aborde pas du tout et qu'on laisse le champ libre à ceux qui veulent profiter de cet immobilisme de la République.
Oui, là, vous parlez de l'islamisme.
Ben oui, c'est-à-dire de cette dérive de l'islam qui porte un projet politique, lequel se veut en marge des règles de la République. On peut appeler ça le communautarisme, le séparatisme, c'est le mot choisi par le chef de l'État. Mais à la fin, le vrai sujet, le vrai danger, c'est en effet la montée en puissance et la quasi-impunité de l'islam radical. C'est ce phénomène qu'Emmanuel Macron va cibler aujourd'hui en annonçant le dépôt dans les semaines qui viennent d'un projet de loi.
Et ça va tanguer ?
C'est probable, oui. Entre ceux qui craignent que l'on stigmatise les musulmans et qui, en réalité, défendent une sorte de communautarisme, et puis ceux qui défendent la laïcité à tout craint, le débat est éruptif, y compris au sein de la majorité. Et le risque, c'est que pour apaiser ce débat, le chef de l'État essaye de faire du « en même temps » qu'il impose, par exemple, des règles strictes pour l'organisation du culte musulman en les étendant en même temps aux autres religions qui, elles, vivent pourtant très tranquillement. La tentation, c'est que sous prétexte d'éviter tout amalgame entre les musulmans et ceux des leurs qui dévoient cette religion dans un but politique ou terroriste, ils parlent de tous les séparatismes en même temps, religieux et sectaires, régionalistes, politiques aussi. Il y a bien quelques micro-partis activistes qui rejettent la République. Eh bien, cette façon de dissoudre tout dans tout, cette façon de masquer la cible principale serait ou c'est un très mauvais signal dans la lutte contre l'islamisme radical.
On va voir comment les choses seront nommées ce matin au Mureau, discours du président de la République à 10h30. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui, à sa façon, conseille l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, voulait lui donner un petit conseil.
Oui, bonjour Monsieur Bédard.
Bonjour.
Monsieur Bétou, Monsieur Cameroun. Écoutez, je souhaitais donner un petit conseil à ma collègue et néanmoins amie de l'Intérieur, qui, vous l'avez vu, a pris position dernièrement sur les tenues que portent les lycéennes. Donc je le dis à Marlène Schiappa, fais attention, messieurs, puisque Europe 1 est filmé à la façon dont tu es habillé ce matin à l'antenne. Voilà, mettre une tenue républicaine me semble indispensable. Alors, une robe en dessous du genou, bien sûr, pas de mini-jupe, rien de provoquant. Il faut, je crois, au moment de s'habiller, penser à la France, de mettre des talons plats. Sois citoyenne, une chemise ras du cou qui rappelle, je crois, les valeurs des Lumières. Voilà, c'est pas le moment de faire la féministe avec des décolletés profonds comme le Grand Canyon. On a besoin de cohérence gouvernementale, je crois. Ne pas avoir l'air sexiste à votre antenne, bien entendu, mais pas de crop top. Voilà. Et si on voit ton nombril, Marlène, ce matin, je me verrai contraint de le dire à Jean Castex.
7h55, c'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à Samiani, à l'invité politique de la matinale. Sonia Mabrouk reçoit Marlène Schiappa à 8h15. Merci Nicolas, à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presque. 7h58, il y a une actualité météo ce matin que je veux souligner. C'est pour ça qu'on a Laurent Cabrol, heureusement, avec nous ce matin. C'est vigilance rouge. Alors, ça s'est levé en Bretagne, mais c'est rouge dans les Alpes-Maritimes. C'est rare, rouge, hein, chez Météo France, Laurent, non ?
Oui, bah, ça veut dire que ça devient maintenant presque un peu banal, dommage, parce qu'en fait, rouge, ça veut dire on ne sort plus de chez soi. À l'origine, c'était ça. Hein. Et maintenant, c'est devenu la super alerte. Mais j'aimerais bien qu'on mette une alerte écarlate, ça sera encore mieux, parce que là, ça veut vraiment dire « sortez plus de la maison ».
On va attendre qu'Olivier Véran ait terminé côté Covid, et puis vous récupérez les alertes rouges, alerte maximale, écarlate, etc.
Alors là, c'est alerte rouge, les Alpes-Maritimes. On sourit, mais ça va être sérieux, parce qu'il y a énormément de pluie qui arrive, et surtout des orages avec la mer qui va déborder sur les côtes et qui va atteindre les routes, les voies de chemin de fer, etc. Donc c'est une... pas un danger, si c'est un danger quand même, pour l'ensemble des habitants des Alpes-Maritimes qui sont donc placés en vigilance rouge. Vigilance orange pour le Vaucluse, le Var, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Ces orages seront là, ils donneront en une journée l'équivalent d'un mois de pluie dans ce secteur de la France, avec donc les submersions de vagues que j'ai indiquées à l'instant. Partout ailleurs, c'est un temps de pluie. Alors la pluie passe pendant à peu près 4-5 heures. Ensuite, vous avez une petite amélioration. Ce sera le cas sur la vallée de la Loire, c'est le cas d'ailleurs. Sur la vallée de la Loire, ce sera peut-être le cas sur la région parisienne, c'est pas sûr, et sur le centre. Mais revenons à ce qui s'est passé ce matin à partir de 5 heures. C'était la tempête. Et la tempête, maintenant, commence un peu à s'en aller. C'était Alex, avec 186 km/h qui ont été enregistrés cette nuit à Belle-Île. Et des 131, 132, 122 à Noirmoutier, etc. Enfin, bref. Mais la tempête s'apaise. Et nous avons maintenant, enfin, un temps un petit peu plus serein. Mais tout de même, nous sommes entre 120 et 130 km/h en bord de mer.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Of the United States and the First Lady have both tested positive for the coronavirus. President releasing the information via Twitter just moments ago.
CNN et toutes les télés américaines en édition spéciale. Donald Trump positif au Covid-19. Un président en campagne et en quarantaine à un mois de l'élection. Nous sommes aux États-Unis en direct dans un instant. Contre le séparatisme, après la déclaration de principe, place au discours de la méthode. Emmanuel Macron vise les écoles clandestines, les certificats de virginité ou encore l'opacité des financements de lieux de culte. discutent. Dans ce journal, la droite et l'extrême droite se tutoient dans le sud-ouest, où la maire LR de Montauban, Brigitte Barrège, s'affiche aux côtés de Robert Ménard. Le marché automobile stagne, mais les ventes d'hybrides bondissent. Et puis, indémodable Coco Chanel, une exposition vient d'ouvrir sur cette révolutionnaire du style.
Discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, donc tout à l'heure au Mureau, les enjeux, les grandes lignes de ce discours, les annonces qu'il faut attendre. L'invité politique de la matinale, c'est Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. À 8h15, elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après le Brésilien Jair Bolsonaro, un autre coronasceptique testé positif au Covid-19, Donald Trump, président candidat contaminé.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
En direct de New York pour Europe 1, l'information est tombée il y a une heure à peine.
Oui, et c'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé avec un message sur Twitter un peu avant 1h du matin ici, donc 7h chez vous. Je vous le lis. La première dame et moi-même, nous avons été testés positifs au Covid-19. Nous commençons notre quarantaine immédiatement. Nous, nous en sortirons ensemble. Nous nous sentons bien, a même précisé Melania Trump, elle aussi dans un tweet. Le médecin de la Maison-Blanche a confirmé juste après dans un communiqué. Le président et sa femme vont bien, ils vont rester à la Maison-Blanche le temps de leur convalescence et le président continuera d'assumer ses fonctions. Ça faisait plusieurs heures qu'on savait que Donald Trump avait été exposé parce que l'une de ses plus proches collaboratrices a contracté le coronavirus et elle a voyagé avec le président plusieurs fois cette semaine à bord d'Air Force One. Sur les télés américaines qui sont en édition spéciale, on se demande combien de membres de la Maison-Blanche ont été ainsi contaminé, voire même si le président était déjà infecté lors du débat avec Joe Biden mardi dernier.
Alors Xavier, une quarantaine, mais on est en pleine campagne.
Et oui, alors une quarantaine, c'est normalement 14 jours d'isolement. On ne sait pas si c'est la durée que va observer Donald Trump, mais ce qu'on sait, c'est qu'il reste 32 jours seulement avant l'élection. Le président a annulé le meeting qu'il devait tenir ce vendredi en Floride, celui dans le Wisconsin ce week-end et puis tous les autres. Comment va-t-il faire campagne enfermé à la Maison-Blanche? C'est la question, évidemment. Et puis comment cela va affecter son message? Pendant des mois, il a minimisé le virus, il martèle que les États doivent rouvrir leur économie et il y a quelques heures à peine dans un discours, il proclamait que la fin de la pandémie était en vue. Et puis enfin, les médias américains rappelle que même s'il se sent bien pour le moment, Donald Trump a 74 ans, il est en surpoids, il fait donc partie des personnes à risque.
En direct des États-Unis, le correspondant d'Europe 1, Xavier Yvon.
Un peu plus tôt cette nuit, l'une des sœurs de George Floyd, cet Américain noir étouffé sous le genou d'un policier fin mai, a appelé à faire battre Donald Trump lors de l'élection. « Nos votes sont plus forts qu'une brique qu'on jette », déclare Latonya Floyd, en référence aux grandes manifestations du début de l'été contre le racisme.
5 ans après le discours de Manuel Valls sur l'apartheid territorial, social et ethnique, c'était au Mureau, dans les Yvelines, qu'Emmanuel Macron doit se rendre aujourd'hui pour évoquer cette fois le séparatisme.
6 ministres autour du président de la République, dont celui de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Car ce qui est visé aujourd'hui, Virginie Riva, c'est aussi une forme d'instruction des enfants très en marge.
Oui, car il y a 20 ans, assure-t-on à l'Élysée, les lieux d'influence de l'islam radical étaient les mosquées. Aujourd'hui, disent-ils, ce sont surtout les activités scolaires. Et notamment ce phénomène qui inquiète particulièrement, l'instruction à domicile lorsqu'elle est détournée. Elle concerne en tout 50 000 enfants, un chiffre en forte progression. C'était 30 000 en 2017. Ce qui pose problème, c'est lorsque les parents utilisent cette possibilité, non pas pour faire eux-mêmes l'école à la maison, mais pour inscrire leurs enfants dans des écoles clandestines radicalisées. Tous les individus suivis pour radicalisation ont même leurs enfants inscrits en instruction à domicile, explique l'Élysée. Il faut donc à la fois plus de contrôle à domicile et l'objectif de la loi, c'est de pouvoir fermer rapidement ces écoles pour motifs idéologiques et non pour simple raison de sécurité comme à Marseille, Aulnay-sous-Bois ou Sevran récemment. Autre sujet dans le viseur, certaines écoles privées hors contrat déclarées donc légales. Une dizaine sur 1700 sont sous surveillance étroite, dont 5 ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République. Exemple à Toulouse avec l'école Avicenne où la bataille judiciaire dure depuis des années. L'idée, raccourcir la procédure alors que l'urgence, c'est de rescolariser ses enfants.
Explication de Virginie Riva.
8h05 sur Europe 1. Pas de nouvelles restrictions sanitaires à Paris, bien que la capitale remplisse déjà les critères de la zone d'alerte maximale. Le basculement pourrait avoir lieu dimanche soir, si les indicateurs restent mauvais.
Et ce matin, nous avons les détails d'une très grande étude. Auprès de 91 000 patients hospitalisés entre début mars et mi-juin, autrement dit, la première vague, Anne Le Gall.
Alors le portrait robot du malade hospitalisé lors de la première vague, c'est un homme de plus de 75 ans, habitant plutôt l'Île-de-France ou le Grand Est, puisque ces deux régions ont été beaucoup plus touchées par l'épidémie. Dans le détail, cette étude nous indique aussi qu'en service de réanimation, les hommes sont majoritaires, ils occupent 70% des lits et un tiers des patients à plus de 80 ans. Les hospitalisations à moins de 40 ans sont-elles plus rares? Autour de 10% seulement. Ces chiffres nous renseignent aussi sur le parcours des patients. Quand un malade arrive à l'hôpital avec des symptômes sévères de Covid, il y reste en moyenne 8 jours s'il n'a pas besoin de réanimation et 20 jours s'il passe par des soins critiques. C'est en général au quatrième jour de l'hospitalisation que se fait ce passage en soins intensifs s'il est nécessaire. Malgré la prise en charge à l'hôpital, les chiffres montrent qu'un patient sur 5 décède en moyenne, mais dans la très grande majorité des cas, 3 mois après leur séjour à l'hôpital, 75% des patients sont rentrés chez eux.
Les statistiques analysées par Anne Le Gall pour Europe 1. La politique, les digues qui semblent sur le point de sauter entre certains élus de droite et ceux de l'extrême droite, alors que se profilent les régionales.
Le maire de Béziers, Robert Ménard, était hier l'invité de son homologue de Montauban, Brigitte Barège, pour une réunion publique. Notre correspondant en Occitanie, Benjamin Péter, a assisté à cette rencontre inédite.
Ce qui a déclenché cette complicité, c'est la période du confinement.
Le ton est chaleureux, la complicité affichée, le tutoiement assumé. Et sur l'immigration, la sécurité, les rapports avec les services de l'État, rien ne semble diviser Brigitte Barège et Robert Ménard.
Je pense que tous les partis de droite, aujourd'hui, sont un obstacle à cette union du peuple de droite que j'appelle de mes voeux. Moi, je réunis bien au-delà de telle ou telle sensibilité de droite, tu fais la même chose. Et voilà, et je pense qu'on est l'exemple d'un dialogue possible.
Mais pas question de créer une formation, d'évoquer un ticket pour les régionales. Officiellement, on ne parle que de la gestion des villes. Il est venu en voisin. D'ailleurs, Brigitte Barège le reconnaît. L'état-major LR l'a convoqué en début de semaine.
On m'a demandé des comptes et les seules exclusives qu'apportait Christian Jacob concernaient des rapprochements avec la majorité présidentielle. Il a été très clair. Il a très bien compris la démarche. Il ne l'a pas condamné, je ne pense pas, dans la mesure où on reste sur ce débat des municipales.
Alors localement, aucun républicain ne semble prêt à les suivre dans cette aventure. Et côté RN, si certains, comme le nouveau maire de Moissac, étaient dans l'assistance, ce rapprochement ne plaît pas à tout le monde, notamment à Louis Alliot, qui a dénoncé sur Twitter un bidouillage dont les électeurs ne veulent plus. À Montauban, Benjamin Péter, Europe 1.
80 000 foyers privés d'électricité dans le Morbihan, après le passage de la tempête Alex, qui a aussi arraché le toit d'une école. Laurent Cabrol nous le disait tout à l'heure. Les Alpes-Maritimes ont basculé ce matin en vigilance rouge pour pluie, inondation.
Vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, le boom des ventes des véhicules hybrides.
Et puis la réouverture du musée de la mode avec une icône, Coco Chanel.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Au global, ce n'est pas folichon. Le marché automobile a stagné en septembre, moins 3%. Mais un segment confirme son succès, ce sont les véhicules hybrides, notamment grâce aux bonus gouvernementaux. Aurélien Fleureau.
Plus 158% entre septembre 2019 et septembre 2020, plus 72% sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes d'hybrides explosent. Alors c'est vrai pour l'hybridation légère façon Toyota ou Hyundai et leur batterie 48 volts, mais ça l'est de plus en plus pour les hybrides rechargeables, le choix des constructeurs français, comme Renault avec sa récente gamme E-Tech et PSA, leader de ce secteur avec le 3008 plug-in hybride. C'est le début d'une lame de fond, estime Guillaume Cousy, directeur de Peugeot France.
Je crois qu'effectivement c'est un phénomène qui va s'accélérer dépendant de moins en moins des soutiens gouvernementaux. On a vraiment des performances qui peuvent être très intéressantes en termes de consommation et d'émissions de CO2, hein, puisqu'on a une homologation à 29 grammes, et la possibilité d'utiliser soit le mode full électrique, soit d'utiliser un moteur thermique.
La part du 100% électrique a triplé en un an, avec en tête la Zoé et la i208, alors que la chute continue pour le diesel et l'essence. Mais tout cela ne concerne que les voitures neuves. Le marché de l'occasion, lui, enchaîne son quatrième mois de croissance à deux chiffres, plus 22% encore en septembre, avec là, de manière logique, une nette domination des moteurs thermiques.
Une éblouissante exposition Chanel pour la réouverture aujourd'hui du musée de la mode à Paris après 2 ans de travaux.
Rétrospective consacrée à Gabrielle Chanel près de 50 ans après sa mort et qui reste ultra moderne. Diane Chenouda.
Le confort et l'élégance, la liberté de mouvement, c'est ça le style Chanel. Comme le confirme Véronique Belloir, l'une des commissaires de l'expo, Chanel est la première à avoir libéré le corps de la femme.
Peut-être parce que c'est aussi une créatrice qui est une femme, qui porte sa mode, qui ressent à travers son corps, voilà ce que ça veut dire, cette liberté. Elle fait une proposition radicalement différente dans les années 10 et on est là devant la fameuse marinière. C'est un tissu très fluide, c'est une forme géométrique, c'est très beau aussi en volume. plume avec ce grand col marin qui retombe dans le dos. Ça, pour l'époque, c'est quand même radical.
Chanel, la première aussi à imaginer des poches sur les vêtements de femmes, comme sur son fameux tailleur.
Ça marque une sorte de prise d'indépendance des femmes, parce que les poches chez Chanel, on peut mettre des choses dedans, on peut mettre ses mains, et on la voit souvent dans cette pose un peu détendue, décontractée. Ça donne cette idée de désinvolture et de liberté aussi des femmes.
Et un parfum immortalisé par Marilyn Monroe, qui affirmait dormir nue la nuit avec simplement une goutte de numéro 5.
Et puis le sport, difficile de passer après ça. Le sport, le foot, Marseille face à Manchester City, Rennes contre Chelsea, PSG contre Manchester United. Voilà pour les adversaires les plus coriaces des clubs français en phase de groupe de la Ligue des Champions.
Merci François Giffrier. Il y a un très joli Barça-Juventus-Turin aussi qui est attendu entre Messi et Ronaldo. On va suivre ça. Merci François Giffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h12, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un discours attendu d'Emmanuel Macron sur les séparatismes. Mais pourquoi séparatisme au pluriel? Qui vise-t-on? Et puis y aura-t-il vraiment un sursaut pour préserver la République et ses valeurs? Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté, notre invité.
À tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté.
Bienvenue à vous et bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
L'information cette nuit, c'est le président des États-Unis Donald Trump et son épouse positif au Covid. C'est la preuve, s'il en fallait encore une, eh bien que ça concerne tout le monde.
Absolument. Je crois que pour celles ou ceux qui avaient encore un doute, ça nous montre à quel point le Covid touche tout le monde sans aucune distinction et personne n'est à l'abri. Donc ça doit nous inciter tous et toutes à respecter les mesures barrières, à continuer inlassablement, à mettre nos masques, à rester en distanciation sociale. Et vraiment, dès lors qu'on est positif, eh bien, prévenir l'ensemble des personnes avec lesquelles on a été en contact pour pouvoir tracer le Covid.
Ça vous est arrivé ?
D'être en contact ?
Oui.
Oui, ça m'est arrivé. J'étais en contact avec une personne qui a été testée positive au Covid, qui m'a prévenue. Je me suis isolée le temps de faire le test. J'ai eu mon test négatif. Et donc, j'ai respecté cette doctrine du tester, tracer, isoler.
Paris et plusieurs villes, Madame la Ministre, pourraient basculer en alerte maximale d'ici à lundi. Est-ce que ce n'est pas la stratégie de la tension permanente que vous maintenez ainsi ?
Non, je crois que c'est au contraire une vigilance permanente. Il y a une responsabilité très forte qui pèse sur les épaules du gouvernement et singulièrement sur celle du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui prend ses responsabilités avec beaucoup de courage, je crois qu'on peut le dire, et dans la concertation. Et c'est pour ça que les maires de grandes villes ont été reçus récemment.
Enfin.
Alors, la concertation, elle a lieu depuis le début, vous savez, avec la volonté de Jean Castex, le Premier ministre,
oui,
qu'il avait déjà quand il était chargé du déconfinement.
Mais reconnaissez que maintenant, c'est une vraie concertation.
C'est une vraie concertation, les maires sont reçus, et je crois que c'est ce qui est fondamental. On m'amène un autre masque,
oui.
Peut-être qu'on ne m'entend pas bien.
Effectivement, non, c'est pour que vous soyez encore plus audible, effectivement. Même si
voilà,
votre masque est bien connu, Marlène Schiappa, avec cet
merci
éclair
beaucoup
rouge.
Merci beaucoup, j'espère qu'on m'entend mieux ainsi.
C'est
et donc
impeccable.
Je disais que Olivier Véran a reçu et recevra les maires, les élus locaux, pour prendre les décisions qui s'imposent. Et bien évidemment, les professionnels sont aussi reçus, entendus, c'est le cas encore aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, justement, il y a un discours important qui est très attendu sur les séparatismes à 10h30 dans les Mureaux. Pourquoi parler, Marlène Schiappa, de séparatisme au pluriel plutôt que d'islamisme qui est clairement visé?
Je crois que le président de la République a toujours été très clair, à la fois en parole et en acte. En parole, je renvoie à son discours de Mulhouse, au cours duquel le président de la République a été limpide sur la lutte qui mobilise le gouvernement contre l'islamisme, contre l'islam radical, mais aussi en acte. Depuis 2017, ce sont plus de 240 lieux qui ont été faits fermer parce qu'ils représentaient des menaces. Ce sont plus de 1000 policiers supplémentaires pour la DGSI, les services de la sécurité intérieure, où nous étions avec Gérald Darmanin récemment. Et je crois que là, c'est une nouvelle étape que le président de la République va ouvrir dans la lutte contre les séparatismes.
Mais
au premier rang duquel,
oui,
je vous réponds sur le pluriel, au premier rang duquel, bien sûr, l'islamisme, l'islam radical, mais il y a d'autres formes de séparatisme, et le président précisera, j'imagine, tout à l'heure, sa pensée, sa doctrine sur ces
lesquels
sujets.
Qui sont les autres séparatistes aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez nous donner, selon vous, des exemples précis de ces groupes qui menacent la République?
Oui, je crois qu'on peut évoquer la question des dérives sectaires, dont j'ai la responsabilité, mais également, par
exemple...
Il y a une
loi contre cela, Madame la Ministre,
alors,
déjà.
Il y a des lois, mais il y a d'autres mesures qui devront être mises en place, mais on peut évoquer également les questions du suprémacisme blanc, Par exemple, un attentat récemment a été déjoué par les services de sécurité en France. On peut évoquer l'attentat de Christchurch qui avait eu lieu au nom de cette idéologie. Mais ne nous fourvoyons pas, nous sommes très clairs
sur France,
le fait que...
Est-ce que c'est la menace principale?
Non, ouais. La menace principale, c'est celle de l'islamisme, de l'islam radical. Et nous avons déjà un arsenal très complet pour lutter contre le terrorisme. Mais nous voulons là remplir la zone grise, les trous dans la raquette, comme on le dit, qui à l'heure actuelle ne sont pas assez précis.
Je vous entends ce matin, vous êtes clair, vous parlez d'islamisme évidemment, mais qui cherchez-vous à ne pas stigmatiser en parlant de séparatisme au pluriel au lieu directement d'islamisme?
La question, elle n'est pas à mon sens celle-ci, puisque si j'observe les prises de parole des uns et les autres, ce matin, le représentant du CFCM, le Conseil français du culte musulman, a dit très clairement qu'il était un soutien de cette loi contre les séparatismes. Hier, nous avons reçu avec Gérald Darmanin, Place Beauvau, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, accompagné de hauts responsables du culte musulman, qui nous ont dit et qui se sont exprimés d'ailleurs dans une tribune dans Le Monde, qu'ils voulaient lutter eux aussi contre l'islamisme, et d'ailleurs que les musulmans étaient les premières victimes de l'islamisme.
Oui, donc c'est ça, votre crainte, c'est que certains l'aperçoivent comme une loi anti-islam.
Je crois qu'il est assez clair. Alors, il y a des gens de mauvaise foi qui voudront instrumentaliser les positions des uns et des autres. Et bien, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, très simplement. À l'extrême droite, parce qu'eux veulent absolument désigner les musulmans, l'ensemble des migrants, tous ceux qui viennent de l'étranger comme les ennemis dans leur ensemble de la République.
Qui est à l'extrême droite ?
Ah bah Éric Zemmour, par exemple, qui est un proche de Marion Maréchal Le Pen, qui s'est exprimé à la Convention de la droite et qui, pas plus tard qu'hier, a dit que tous les enfants migrants étaient des assassins, des violeurs, etc. Je pense que ces propos posent problème. Mais nous avons de l'autre côté des gens, notamment, par exemple, eh bien, ceux que nous combattons, les islamistes, qui veulent jouer une forme de victimisation en faisant croire que les musulmans ne seraient pas bienvenus dans la République. Il y a des millions de musulmans qui vivent en paix, dans le respect des lois de la République, et qui sont, je le répète, les premières victimes
de l'islamisme.
C'est une évidence,
c'est important
aussi
de le rappeler. Mais Marlène Schiappa, est-ce que par peur de l'amalgame, votre main risque de trembler pour ce projet de loi sur les séparatismes?
Non, vous savez, c'est un projet de loi qu'a voulu le président de la République, sur lequel il y a un travail constant depuis maintenant 18 mois, qui avait été commencé par Christophe Castaner et Laurent Nunez, dont nous poursuivons le travail, Gérald Darmanin et moi-même. Nous sommes évidemment dans une grande démarche de consultation. Nous avons reçu beaucoup d'associations, beaucoup de représentants de sphères de la laïcité, des philosophes,
des
représentants
des cultes. Si vous le voulez bien. Je vous donne un exemple précis pour que vous me disiez comment on va lutter contre ce séparatisme et cet islamisme. Récemment, Madame la Ministre, une école à Sevran qui détournait les procédures d'instruction à domicile a été fermée par le préfet qui a dû ruser et mettre en avant un non-respect des règles Covid. Est-ce que prochainement, vous pouvez nous dire ce matin que la loi permettra de la fermer pour séparatisme islamiste?
Alors vous avez tout à fait raison de rappeler les démarches qui ont été les démarches de l'État et qui, à l'heure actuelle, est obligé, comme vous dites, de ruser. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, les services de l'État sont obligés d'adapter un peu la stratégie du FBI vis-à-vis d'Al Capone et d'aller chercher ce qui peut exister en termes financiers, en termes de respect de la sécurité.
Qui était tombé Al Capone pour fraude fiscale. Voilà.
Absolument. Et là, ce que nous voulons, c'est, comme je disais tout à l'heure, vraiment remplir tous les trous dans la raquette et apporter des réponses à ce cas, mais aussi, par exemple, à ce club de jujitsu dont vous avez peut-être vu l'article de vos confrères du Parisien qui révèle qu'un club de jujitsu dans la ville de Savigny-le-Temple recevait des fonds publics, des subventions, mais qu'en réalité, sous couvert de faire du jujitsu, c'était un bras armé de la radicalisation avec obligation de réciter des prières, discrimination des femmes, propos antisémites violents, etc.
Avec
etc.
la prochaine loi, un tel club pourra fermer pour les raisons séparatistes ou communautaristes.
Alors, dans quelques heures maintenant, dans deux heures, le président de la République s'exprimera et donnera les grandes lignes de la loi qu'il nous charge de construire contre les séparatismes. Mais oui, l'idée, c'est vraiment, comme je le disais, de combler des zones grises et d'apporter des réponses à ces cas très concrets. Ce sont, depuis 2017, 240 lieux qui ont été faits fermer par les services de l'État, des lieux qui posaient problème en raison de radicalisation islamiste.
240 lieux fermés, et combien d'écoles privées hors contrat soupçonnées en ce moment de séparatisme? Avez-vous ce chiffre?
Alors, on est en train de consolider ces chiffres, mais il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres très précis, puisque par définition, une école hors contrat qui a pour but la radicalisation et la propagation des thèses islamistes ne va pas se déclarer comme telle, et donc on va passer par des déscolarisations, l'éducation, par des petits groupements d'écoles hors contrat non déclarés. Donc Jean-Michel Blanquer travaille aussi activement, bien sûr, avec l'ensemble du gouvernement sur cette loi contre les séparatismes.
Mais ça veut dire donc que la prochaine loi nous permettra de fermer ces lieux pour des raisons de séparatisme et d'idéologie. Bon. C'est ce que vous nous confirmez, c'est l'esprit de la loi à venir.
L'esprit de la loi, c'est effectivement d'être le plus concret possible. Et le président de la République est très attaché à ce qu'on ne fasse pas une loi d'incantation, mais vraiment une loi concrète qui permette d'obtenir des résultats dans cette lutte contre les séparatismes et contre l'islamisme radical.
Pas d'incantation et pas de déni. Vous venez de me citer, Madame la Ministre, l'enquête dans Le Parisien qui révélait effectivement les atteintes à la laïcité dans un club de sport. Il y a quelques jours, à votre place, j'ai interrogé sur ce sujet la ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, qui m'a dit, je la cite, hein, « Ce sont des on-dit. Nous manquons, dans le sport, de données objectives pour mesurer le phénomène de radicalisation. » C'est des on-dit ?
Je ne crois pas que ce soit des on-dit, pas du tout. Je pense au contraire que ce sont des faits qui sont vérifiés. D'abord, moi, je crois au travail des journalistes et quand il y a de nombreuses, pas une, mais 10, 20, 50, 100, depuis des années, de nombreuses enquêtes journalistiques, des livres, un travail mené par des parlementaires qui ont publié des rapports sur ces questions. Je crois qu'au contraire, ce sont des éléments très précis. Et il y a pas mal de clubs de sport, trop en tout cas, qui sont les faunés de l'islamisme radical et qui se servent sous couvert de sport, mais d'autres, c'est sous couvert de soutien scolaire ou sous couvert de telle ou telle activité qui passe bien. Eh bien, ce sont des bras armés de l'islamisme radical.
Je voudrais qu'on conclue sur un sujet important, Madame Schiappa. Vous voulez interdire les certificats de virginité qui sont des actes humiliants, indignes. Mais une gynécologue qu'on a entendue tout à l'heure sur notre antenne de Seine-Saint-Denis, elle explique l'importance de ces actes. Elle dit qu'il ne faut pas rompre le lien avec ces jeunes femmes qui risquent alors véritablement de très très gros problèmes. Qu'est-ce que vous dites à cela ?
Mais moi j'entends des gynécologues qui disent qu'elles font le certificat de virginité pour que la jeune fille rentre chez elle et soit protégée, parce qu'elles nous disent je ne sais pas ce qui se passe si la jeune fille rentre sans son certificat de virginité. Je comprends leur point de vue de gynécologue. Moi je ne suis pas gynécologue, je suis ministre. Et donc la responsabilité qui est la mienne, c'est de dire ce que la République admet ou n'admet pas.
Mais vous ne pouvez pas ignorer des cas concrets sur le terrain.
Je n'ignore pas des cas concrets, mais qu'est-ce qu'on imagine qui se passe pour la jeune fille qui rentre chez elle avec son certificat de virginité? Est-ce qu'on imagine qu'elle va se marier, vivre heureuse, avoir beaucoup d'enfants et être respectée dans sa dignité? Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise en charge sociale. Mais comme il y a des années, la République a dit non et stop à l'excision, la République aujourd'hui doit dire non et stop au certificat de virginité. On ne certifie pas la virginité d'une citoyenne dans la France, dans la République de 2020.
Donc ce sera interdit.
Je le souhaite.
Merci Marlène Schiappa, merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
Je cite
à vous.
Votre ouvrage « Entre toutes les femmes, 11 rencontres exceptionnelles » chez Grasset. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs. Vous allez rejoindre le président de la République.
Absolument.
Là, tout de suite.
Merci beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, l'info avec Hélène Zélani.
Donald Trump et son épouse Mélania positifs au Covid-19. Le président américain l'annonce lui-même sur Twitter. Il se met en quarantaine et annule son meeting aujourd'hui en Floride. Selon son médecin, il va bien et va assumer ses fonctions pendant sa convalescence. Emmanuel Macron attendu ce matin au Mureau dans les Yvelines pour un discours majeur de son quinquennat. Le président va présenter sa stratégie contre les séparatismes avec notamment un contrôle plus strict des écoles privées ou encore la neutralité des services publics. Alerte rouge dans les Alpes-Maritimes à cause des risques de pluie et d'inondations. Tous les établissements scolaires sont fermés. Idem dans le Morbihan, frappé cette nuit par la tempête Alex avec des vents jusqu'à 186 km/h. 80 000 foyers n'ont plus de courant. Côté SNCF, circulation des trains interrompue entre Quimper et Rennes jusqu'en fin de matinée et des perturbations importantes dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine.
Merci beaucoup Hélène Zélani.
Passionné de tennis, c'est l'heure du journal de Roland-Garros avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Le journal de Roland-Garros avec vous Corinne Boulou. Bonjour Corinne.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La relève du tennis féminin français se distingue à Roland-Garros.
Oui, Fiona Ferro, 23 ans, confirme. Clara Burel, 19 ans, se révèle. Toutes deux joueront pour une place en 8e de finale demain. Fiona en a d'ailleurs profité hier pour prendre ses marques sur l'un des cours les plus prestigieux au monde, alors qu'elle était programmée sur un cours annexe. Même pas peur.
Quand j'ai appris que j'allais jouer sur le central, j'étais super contente. Enfin, j'étais pas du tout inquiète, mais j'étais juste contente de pouvoir jouer sur ce court qui est magnifique. Et le public m'a bien aidée, il m'a poussée au troisième set, ma famille, le public, et c'était génial.
Fiona Ferro, qui reste invaincue depuis le confinement, a pour particularité de jouer sans équipementier attitré. Ça ne devrait pas le rester longtemps. Et Clara Burel, qui revient d'une grave blessure au poignet, est la quatrième française à atteindre les 16e de finale dès sa première participation à Roland-Garros.
Le chiffre, ça c'est une nouvelle expression hein, dans le monde du sport, invaincue depuis le confinement. Ouais. Je vais la garder, celle-là. Le chiffre du jour, 70 pour le numéro 1 mondial.
Oui, Novak Djokovic est le troisième joueur de l'histoire à compter 70 victoires à Roland-Garros. Il égale ainsi Roger Federer, mais reste encore loin de Rafael Nadal et ses 95 victoires. Djokovic, qui a tenu hier à remercier le public clairsemé en tribune.
C'est sûr que c'est vraiment joli de voir le public. Après 2-3 mois jouer sans le public, c'est dur pour nous parce que vous êtes un élément très important de notre carrière professionnelle et de notre sport. Donc merci beaucoup, merci pour votre soutien.
Est-ce que vous entendez, Mathieu, ce ne sont pas les applaudissements d'une bande-son, hein. Pourtant, il n'était que quelques centaines, jauge à 1000 oblige.
C'est donc le grand jour pour le dernier représentant français dans le tableau, messieurs.
Hugo Gaston s'apprête à vivre son premier 16e de finale sur un grand court. Pas le Châtrier, mais le Lenglen, si le temps le permet. Ce sera face à l'un des meilleurs mondiaux. Il avait à peine 15 ans lorsque Stan Wawrinka a soulevé la Coupe des Mousquetaires. Il s'en souvient encore. Leur face-à-face s'annonce forcément inégal. Analyse de notre consultant Cédric Pioline.
Wawrinka, avec son expérience, justement, va s'employer à ce que le jeune Français n'ait pas d'espoir, en fait. Il va essayer de lui mettre la tête sous l'eau dès le début, de prendre le score, justement, en lui disant, écoute... Voilà, c'est pour moi aujourd'hui et tu ne penses pas que tu puisses créer la surprise. Quoi. Il y a vraiment un rapport psychologique qui s'installe dans un match comme ça.
Et dans le tableau féminin, Caroline Garcia sera opposée à la Belge Elise Mertens, 20e mondiale.
Merci Corinne Boulou et merci à vous Corinne et aux équipes de Roland-Garros. J'ai le droit à un petit cadeau ce matin. Le masque officiel de Roland-Garros, s'il vous plaît, apporté par Corinne Boulou. Le masque officiel sur la radio officielle qu'est Europe 1. Merci Corinne et à demain, 8h34. J'ai dit à demain pour Corinne Boulou, que vous retrouvez toutefois toute la journée sur Europe 1 pour vous faire vivre Roland-Garros avec le service des sports. 8h34, Laurent Cabrol, la météo.
Il y a des pistonnets, ici il y a des pistonnets.
Voilà, c'est tout. Vous voulez un masque de Roland-Garros?
Bon, si nous avons le sourire, c'est parce que la tempête commence maintenant à s'évacuer tranquillement. Les vents se situent autour de 60-70 km/h, donc pas trop d'inquiétude pour maintenant, en ce qui concerne la suite, hein, puisque les vents ont atteint les 186 km/h à Belle-Île, 157 à l'île de Groix, 133 à Barfleur, enfin bref, c'était des vents très violents cette nuit. Et maintenant, elle s'en va, elle s'échappe, elle passe le Cotentin et elle va vers la Manche. Alors, si nous sommes tranquilles, relativement tranquilles pour ce qui va se passer dans ce secteur de la France, on l'est beaucoup moins sur ce qui se passe maintenant dans les régions du Sud-Est, c'est-à-dire sur les Alpes-Maritimes, où nous aurons un mois de pluie dans la journée, un mois de pluie en quelques heures, et sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, le Var, nous aurons également beaucoup d'intempéries. Les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge, ça je vous l'ai dit, et ça, elle va le rester cette région, parce que franchement, il va vraiment beaucoup pleuvoir. Mais ce qui me rassure, c'est que ça a l'air d'aller plus vite que prévu. Là, je vois déjà des orages sur Nice, donc ça signifie que la perturbation qui est énorme, elle doit faire 300 km de large.
Vous m'avez fait peur, Laurent.
Elle est en train de balayer la France. Chers amis, si vous avez de la pluie au-dessus de votre tête, vous dites, ça va pas durer longtemps, mais si vous êtes dans l'Est et dans le Sud-Est, ça va se coincer. Et là, j'ai peur que ça reste un peu plus longtemps que prévu. Si vraiment ça arrive à passer, on sera quand même un peu soulagé. Enfin, pour l'instant, je suis encore sur des œufs, je vous le dirai tout à l'heure, et je vous dirai où nous en sommes dans une petite demi-heure lors de notre prochain rendez-vous. Mais si vous êtes aussi sur la Drôme et l'Ardèche, attention, il va y avoir également des orages. Et puis, quand la pluie est passée, eh bien, les éclaircies réapparaissent.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h38 sur Europe 1, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Notre santé. Et ce matin, vous souhaitez revenir sur la contamination des enfants. Et je sais que certains auditeurs vont monter le son, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants. Il faut reconnaître que c'est parfois compliqué. Est-ce qu'on en sait un peu plus ?
Oui, alors je vais vous parler d'une étude incroyable américaine. 550 000 enfants testés positifs au Covid qui ont moins de 18 ans. Donc ça représente une énorme cohorte, une des plus grandes au monde. Alors les bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. On peut rassurer les parents, les enfants font des formes peu graves. 2% simplement étaient hospitalisés et un taux de mortalité heureusement extrêmement faible à 0,01%. Donc pour ça, c'est plutôt rassurant. En ce qui concerne la proportion d'enfants malades, En avril dernier, aux États-Unis, il représentait 3% de l'ensemble des cas, ce qui veut donc dire qu'on avait 97% d'enfants malades, mais cette proportion est passée à 16% 8 semaines après. Alors on pouvait se demander, est-ce que c'est lié au fait qu'on teste plus ? Eh bien, il semblerait que oui, puisque le taux de positivité est resté stable à 5 ou 7%. Donc les enfants peuvent tomber malades, ça on le savait. Est-ce qu'ils sont responsables d'une reprise de l'épidémie ? Eh bien, il ne semblerait pas tant que ça. Nos écoles sont ouvertes depuis plus d'un mois, donc on peut pour l'instant, peut-être que les données évolueront, être rassurant chez les petits-enfants. En ce qui concerne les plus grands, c'est une autre paire de manches.
Bon, de nombreux cas sont décrits dans les lycées, les universités. Est-ce que ce sont des lieux à risque de contamination ? En clair, Jimmy, est-ce que c'est risqué d'aller à l'école ?
Alors, tout d'abord, il faut reconnaître que nous avons perdu le contrôle du virus dans certaines zones et nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les universités et certaines écoles représentent un tiers des contaminations. Sauf qu'on fait face à un protocole très strict où toutes les données remontent. Sauf qu'il y a d'énormes zones où on ne sait pas ce qui se passe. Évidemment, ce que je vais vous dire n'est pas populaire. Les facultés sont évidemment blindées avec des étudiants qui sont entassés dans des amphithéâtres. Mais ils sont masqués. Donc à ce moment-là, ils ne tombent pas malades. Ils vont tomber malades le week-end lorsqu'ils vont aller faire la fête. De la même façon, lorsqu'on a vu les transports en commun, désormais ce n'est plus une zone à risque vu que tout le monde porte un masque. En revanche, on sait que les 18-25 ans sont responsables, sans les stigmatiser, d'une reprise de l'épidémie. Plusieurs conseils simples qu'on peut proposer. Quand les bars et restaurants peuvent fermer à 22h, ce n'est pas pour aller vous rassembler à 22h30 dans des appartements entassés. Limitez les interactions sociales. Et on peut proposer deux choses pratiques, puisqu'apparemment le message ne passe plus. On peut proposer des bulles sociales, comme c'est fait notamment en Belgique. Faites-vous un groupe de 5-6 amis que vous allez voir en permanence. Vous ne voyez personne d'autre pendant 3 semaines si jamais vous devez faire des soirées. Ça permet de limiter la contagion et puis éviter ce qui peut être des bombes épidémiques avec ces fêtes illégales où on va avoir 500 personnes qui vont être responsable d'une diffusion massive de l'épidémie. Souvenez-vous, le rassemblement évangéliste à Mulhouse a créé l'épidémie en France. Bref, soyons prudents, 2-3 semaines un peu raisonnables et peut-être que les choses s'amélioreront.
Jimmy, vous voulez bien être dans ma bulle sociale ?
Avec grand plaisir Mathieu,
allez,
on sera dans ma bulle.
8h41. Notre planète, tous les matins à 8h40 sur Europe 1 avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, vous nous dites qu'installer trop de ruches en ville serait une fausse bonne idée.
Mais oui, mettre une ruche sur le toit de sa copro, de son entreprise ou sur son balcon, ça l'affiche bien, c'est bon pour la planète, enfin ça c'est de la théorie. La tentation est grande de suivre cette tendance d'installer des ruches en ville, sauf que certaines agglomérations sont en train de compter plus d'abeilles que d'habitants. Une seule ruche pouvant contenir 20 à 30 000 abeilles, parfois plus. À Paris par exemple, on compte 20 ruches par kilomètre carré. Alors vous allez me dire qu'il y a des vertus à avoir des insectes pollinisateurs en ville, qui en plus produisent un miel parfois de plus grande qualité que celui récolté à proximité des champs de culture. Oui, mais nous ne parlerons pas de qualité du miel ce matin. Là où je veux en venir, c'est que dans ces ruchers géants que sont en train de devenir les espaces urbains, on se rend compte que cette prolifération met à mal d'autres espèces, y compris d'autres espèces d'abeilles.
Vous êtes en train de nous dire que trop d'abeilles tuent les abeilles ?
En quelque sorte, en tout cas, il ne faut pas se fier aux apparences. On pourrait croire que plus ça bourdonne, mieux la biodiversité se porte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe énormément d'espèces d'abeilles différentes. La plupart sont sauvages. Alors lorsque l'abeille la plus domestiquée, l'Apis mellifera, s'accapare tout le territoire, c'est au détriment des autres espèces d'abeilles sauvages, mais aussi des bourdons et des papillons, par exemple. On peut considérer qu'il y a interférence dans les pollinisateurs. En gros, il n'y a pas suffisamment de place quand tout le monde pollinise sur les mêmes plates-bandes.
Et c'est important de le rappeler, hein, Fanny, les pollinisateurs, ce ne sont pas que les abeilles à miel. Donc, lorsqu'il y a trop de ruches, il peut y avoir moins de biodiversité en ville.
Mais oui, c'est exactement ça. Les scientifiques qui font ce constat conseillent aujourd'hui d'arrêter d'installer des ruches en ville, ou en tout cas de mieux les espacer. C'est déjà le cas à Lyon, Besançon et Metz, qui ont interdit toute installation supplémentaire de ruches. Retenons que c'est une histoire d'équilibre dans la nature. C'est ce qu'il faut intégrer quand on veut maintenir de la diversité, y compris en ville.
Merci Fanny Agostini, Notre Planète, il est 8h43.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
9h moins le quart, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont toujours en studio avec nous, Sonia Mabrouk et Marlène Schiappa.
Oui, Marlène Schiappa est mon invitée ce matin. Bonjour Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, le discours du président Omuro, à quoi faut-il s'attendre dans ce discours ? Comment ne vous comprend pas, Marlène Schiappa?
Oui, ah, pardon, on est en train de m'amener un autre masque parce qu'on m'entend pas bien. Voilà, j'avais mon masque noir avec un éclair rouge à paillettes. Pour symboliser et rendre hommage aux victimes de la tempête Alex, cet éclair rouge. Et puis pour rendre hommage également à mon super-héros préféré, Flash Gordon. Et à mon chien rouge.
Mais on ne vous comprend pas, Marlène Schiappa. De toute façon, on ne comprend pas le gouvernement depuis le début de cette crise, Marlène Schiappa.
Non, mais si, pour être très clair, et pour répondre à votre question sur le séparatisme, il y a des trous dans la raquette, c'est vrai. Les balles passent au travers de la raquette, il faut les résoudre, nous allons les résoudre.
Oui, en gros, le gouvernement, c'est un petit peu un joueur de français, pardonnez-moi. À Roland-Garros, c'est toujours la faute de la raquette, c'est ça, Marlène Schiappa? À vous, Julie.
Merci à toutes les deux. Bon, on a tous des masques ici, j'espère qu'on nous entend bien. Hein. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu.
Oui, ma chère Julie. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et merci à Marlène Schiappa d'avoir respecté les règles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité, c'est bien sûr, nous l'avons appris en exclusivité sur Europe 1, 7 minutes après la prise d'antenne ce matin à 7h, c'est Donald Trump qui est positif au Covid. Les symptômes, on les connaît, c'est l'absence de goût. Bon, dans le cas de Donald Trump, vu ses costumes trop grands, son visage orange Casimir et ses cheveux, on était au courant pour l'absence de goût. Alors, est-ce que Donald Trump va appliquer lui-même les remèdes qu'il préconisait et boire donc 1 litre de détergent, comme il l'avait dit il y a quelques mois? On ne sait pas, mais en tout cas, on croise les doigts, on l'espère. Et puis, l'autre info, c'est la tempête Alex qui frappe la France. L'occasion de faire un point. Tiens, justement, on en parlait avec Laurent Cabrol. Laurent.
Moi, j'ai pas de masque avec un éclair. Hein. Et ce matin, grand soleil partout, il fait beau. Les oiseaux chantent, il faut le dire à nos auditeurs. Le ciel est d'un bleu lumineux.
Non, mais Laurent, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, il fait pas beau du tout et il y a même une tempête dans l'ouest.
Oui,
mais
attendez,
France.
Moi, je vous donne la météo de mon cœur ce matin. Il fait très beau dans mon cœur, ma chère Julie. Je suis d'excellente humeur. Hein. Olivier Véran n'a pas annoncé de fermeture de bar. Voilà. Donc tout va bien, votre tempête, c'est juste, enfin, on s'en fout, hein. C'est juste une petite brise rafraîchissante qui vivifie, disons-le, les poumons, voilà, c'est très bien, moi je chante la vie, je danse la vie, oh, Champs-Élysées, oh, oh,
oh. Merci Laurent, c'est bon. Pour cette bonne humeur quotidienne, même quand il pleut, même quand il fait, voilà, l'actualité, c'est bien sûr les annonces donc, d'Olivier Véran qui ne ferme pas, pour l'instant, les bars et restaurants, des grandes agglomérations, il y a un paquet de verres.
En parlant d'air, excusez-moi, mon cher Mathieu Béliard, mon cher collègue rouleur de R, mais il faut quand même préciser une chose, Mathieu.
On vous écoute, Jean-Michel Apathy.
On a une tempête, des attaques terroristes, on a la pluie, on a le froid. Ouais. Franchement, il n'y a pas besoin de nous demander de rester chez nous. Et de toute façon, on ne serait pas sortis. Là, on est tous déprimés. Je peux vous dire qu'on a envie de rire.
Allez, merci Jean-Michel Apathy. On va faire un point sur les annonces d'Olivier Véran. Évidemment, pour l'instant, pas de restrictions supplémentaires. La situation est cependant de plus en plus préoccupante à Paris, à Lyon, Lille ou Grenoble. On va demander d'abord son avis à un médecin. Bonjour Michel Simès.
Eh oui, bonjour Marina. Écoutez, vous le disiez à l'instant, c'est de pire en pire, mais le gouvernement ne prendra des mesures que si ça empire encore. Autrement dit, on va attendre qu'il y ait beaucoup de malades pour éviter qu'il y ait des malades. Voilà, c'est une stratégie qui consiste à faire de la prévention une fois que la pandémie est passée, si vous voulez.
Ça c'est cash. Hein. On ne vous sent pas très convaincu, hein, cela dit.
Écoutez Marina, je vais vous prendre un exemple pour que vos auditeurs puisse comprendre, mon cher Mathieu, avez-vous eu, pardonnez-moi cette question un peu intrusive, avez-vous déjà eu un rapport sexuel?
Mathieu, oui. Le vrai ou le faux? Je ne sais pas s'il faut répondre. Ça a pu m'arriver.
Non, mais je préfère demander, on ne sait jamais. Eh bien, ce serait comme mettre votre préservatif une fois que la dame est rentrée chez elle. Ça ne sert plus à rien. je ne sais pas si vous étiez informé. Enfin,
j'ai l'image.
Vous avez déjà attrapé votre MST. Je prends des trucs, des exemples sexuels parce qu'il y a que ça que les gens comprennent. Mm-hmm. N'allez pas croire que j'ai l'esprit mal tourné.
Non, bien sûr. Merci Michel Cymes. Olivier Véran a donc fait un point hier sur l'évolution de l'épidémie. Paris a franchi les seuils d'alerte maximum. Le gouvernement prendra éventuellement des mesures lundi si la situation devait s'aggraver.
Comment ça, franchement.
Bah, Jean-Claude Gaudin, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Gaudin? Vous n'êtes plus maire de Marseille, c'est Michel Rubirola qui est maire.
Oui, ben justement, il s'agit bien de ça. Tiens, on s'en fiche de la maire Michel. Là, c'est le citoyen Gaudin qui parle, c'est pas l'homme politique. Paris explose toutes les cotes d'alerte, mais on ne fait rien. Alors qu'à Marseille, pour trois vieux qui toussaient, on nous a fermé les restaurants, les bars et les salles de Paris les salles de sport.
Vous trouvez qu'il y a un deux poids deux mesures, en quelque sorte?
Deux poids deux mesures, pourquoi? Parce que vous ne trouvez pas qu'il y a deux poids deux mesures. Mais c'est scandaleux que les bars parisiens restent ouverts, alors. De toute façon, franchement, entre vous et moi, je vais vous dire les choses, hein, parce que maintenant, ça commence à bien faire.
Allez-y.
Covid ou pas Covid, c'est scandaleux que les bars parisiens restent ouverts. Hein, 17 euros le Coca Light, servi sans un bonjour par un hipster moustachu dont les bras sont recouverts de tatouages. C'est un scandale. Moi, quand j'étais jeune, les tatouages sur les bras, ça voulait dire qu'on avait fait de la prison. Hein, aujourd'hui, ça veut dire qu'on fait des traits de vinaigre balsamique dans des assiettes carrées ou qu'on vend des jus de papaye au prix du pétrole. Non, ceux qui mériteraient la prison, c'est ce genre d'attitude. Non, il y en a assez du deux poids, deux mesures.
Oh, j'aime bien les traits de vinaigre balsamique sur l'assiette.
Je peux vous le refaire. Oui, on fait des traits de vinaigre balsamique dans des assiettes carrées, donc on vend des jus de papaye, du pétrole.
Génial. Allez, un sondage. Changer le masque noir, allez. Un sondage IFOP paru dans Marianne sur les tenues des lycéennes a provoqué un vif débat. Le sondage demandait aux Français quelles sont les tenues qu'ils jugent acceptables pour les lycéennes. Le crop top, j'arrive pas à le dire. L'absence de soutien-gorge, les jupes, toutes les tenues sont passées au crible.
Arrêtez, repentez-vous, mes créants.
Philippe de Villiers, vous vouliez réagir à ce sondage.
Et bonjour, femelle. Oui, je tiens à réagir, parce que je suis scandalisé par ces résultats.
Ah bon, qu'on cherche à réglementer la tenue des lycéennes, ça vous choque?
Non mais ne rêve pas, au contraire, je suis choqué qu'il subsiste, si je lis bien ce sondage, une proportion de Français qui avoisine les 40% et qui trouve normal que des lycéennes exhibent leurs tétons, leurs nombrils, leurs chevilles et même leurs genoux. Mais enfin, mais pourquoi les lycéennes, je pose la question, tiennent tant à se déguiser en casse-croûte pour Dominique Strauss-Kahn, c'est ça?
Oh là 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 là.
Non, est-ce que la Vierge Marie se baladait les tétons au vent et le short au ras du sillon interfessier?
Oh là là. Les détracteurs de ce sondage lui reprochent de sexualiser le corps des femmes. Hein. Les femmes en ont assez de n'être qu'un corps aux yeux de certains hommes.
Non mais arrêtons de grâce, arrêtons à ce débat grotesque. Mais bien sûr qu'un homme désire une femme pour son corps et sa beauté. Il ne va pas la désirer pour son esprit. Non, mais vous avez déjà fait la conversation à une femme. Je vous prends un témoin, monsieur Béillard. Vous voyez bien ce que je veux dire. Cessons, vous discutez avec Sonia Mabrouk tous les matins. Cessons de nous mentir collectivement. C'est pas drôle, monsieur Cabrol. Cessons de nous mentir collectivement. Le corps d'une femme est ce qui intéresse l'homme, car c'est la matrice. C'est le réceptacle sacré, le tabernacle de la fécondité.
Oh là là là.
Sois fier d'être un tabernacle de fécondité, Julie Leclerc, et laisse les travaux intellectuels à des gens comme moi.
Ouais,
la
ça.
France sortira grandie. Alléluia.
Allez, c'est bon, merci Philippe de Mini. Allez, pour terminer, on va parler tennis. L'édition de Roland-Garros 2020 est vraiment très particulière. Hein. Plus le temps passe, plus les conditions empirent. Bonjour Nelson Montfort.
Oui, bonjour Madame Julie, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas de masque. Je parle doucement, excusez-moi, car je ne voudrais pas, comme hier, que les joueurs me prennent pour cible et me lancent des balles, car je parlerai trop fort. Alors que nous avons à l'instant un échange. Voilà, magnifique revers, très très beau revers, que nous avons à l'instant pleine ligne. Vraiment.
Ta gueule, passe-moi une balle. Passe-moi une balle.
Non. Non. Ah.
Raté. Oui, écoutez, oui, mais jeune homme, il faut tenir compte du vent, hein. Oui, vous en parliez. Le temps empire, mais vous le voyez, on s'adapte entre deux bourrasques. Déjà, bonne nouvelle, les joueurs français gardent leurs fondamentaux. Gaël Monfils aurait pu être déstabilisé par ces mauvaises conditions. Le vent aurait pu ramener ses balles dans le court, mais non. Gaël a su trouver les ressources pour satelliser la plupart de ses balles dans les bâches. Bravo Gaël !
Alors, à part les défaites françaises, qu'est-ce qui se passe d'inhabituel, de nouveau, cher Nelson ?
Alors, excellente question, ma chère Julie. Bien écoutez, ma chère Julie, effectivement, la pluie, le vent, la grêle, la neige changent légèrement la physionomie des matchs, mais aussi le profil des joueurs. J'en veux pour preuve les deux prochains simples. Raphaël Nadal va rencontrer Mike Horn sur le central, et Djokovic va affronter Jean-Louis Etienne sur le Suzanne Lenglet.
Non mais pardon, Mike Horn et Jean-Louis Etienne, ce sont des explorateurs, pas des tennismen.
Oui, hein. Merci, je suis au courant, mais les trois quarts des tennismen se sont barrés, ma chère Julie, je vais vous dire la vérité, il faut bien trouver des gens, des gars habitués à des conditions extrêmes, alors à lundi, pour la suite de ce tournoi qui s'annonce de plus en plus insolite, à vous Paris.
Merci Nelson Montfort.
Bravo, merci Nelson, merci Nicolas, Julie, et merci aux auteurs de Nicolas Canteloup, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. 8h57, Philippe Bordel est avec nous, c'est l'heure de Culture Média.
Mais oui, bonjour Mathieu.
Bonjour Philippe.
Notre info média du jour, c'est un chiffre accablant révélé par le CSA. Seulement 0,7% de personnes en situation de handicap qui sont représentées à la télévision, alors qu'ils représentent 20% de la population, environ 12 millions de personnes. On en parle avec Sophie Cluzel, c'est la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui a des annonces à faire en direct. Jean-Marc Généreux, j'achète, vous le connaissez.
Oui.
Jury emblématique de Danse avec les stars, il quitte TF1 pour France 2, où il va présenter demain soir son émission à lui spectaculaire. Coup de mercato réalisé par Alexandra Redamiel, c'est la patronne des variétés et divertissements de France Télé. Ils seront tous les deux dans ce studio. Enfin, la comédienne Mélanie Doutet pour le film L'Enfant rêvé avec Jalil Lesper et Louise Bourgoin. Et des images là également spectaculaires.
Merci Philippe et à tout de suite pour Culture Média. Après l'info, Sophie Echen à 9h. Je vais vous souhaiter une belle journée et un bon week-end. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller de 6h à 9h samedi et dimanche. Moi, je vais vous retrouver lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.